Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc cette semaine, on fait un film qui s'appelle The Others en 2001 de Alessandro Amenábar. Je sais que je le prononce mal, mais bon. On a de la visite cette semaine, donc Terreur sur le Pods, un autre podcast d'horreur au Québec, vient nous rendre visite. Donc on a Serge, un des co-animateurs avec Bruno, qui vient nous rendre visite. Fait que Serge a amené le film The Others avec lui. Puis c'est quand j'ai demandé « Hey Serge, quel film tu veux écouter, quel film tu veux amener? » Il a dit « J'aimerais ça prendre The Others ». Fait que Serge, pourquoi ce choix-là, justement?
Ben premièrement, avant de répondre à ta question, je veux juste vous dire que je suis vraiment content d'être avec vous autres, les gars. Vraiment, c'est depuis très longtemps que je vous suis. Puis là, d'avoir l'occasion de jaser d'horreur avec vous autres, c'est vraiment cool. Puis en plus, c'est un peu, tu sais, le Marvel, là, il y a le multiverse. Là, c'est comme un podverse. Fait que c'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Puis répondre à ta question, c'est parce que The Others, c'est un film qui parle d'esprit, puis je me suis dit, je vais aller dans quelque chose qui peut-être mis Seb mal à l'aise.
c'est une thématique, on dirait, ces temps-ci, là, essayer de me sortir de la zone de confort. On me propose plus de slasher, là, c'est terminé le confort. Là.
Ben, écoute, Seb, c'est parce que je me suis dit, je voulais avoir ton take, parce que là, première question, tu l'as jamais vu ce film-là?
Je ne l'avais jamais vu, mais malheureusement, je m'étais spoilé à la fin. Je m'étais spoilé à la fin quand. Oui, à cause de Bly Manor. Quand j'ai regardé Bly Manor avec ma conjointe, on s'est informé un peu sur bon, c'était quoi l'histoire, d'où ça venait. Puis dans plusieurs articles, c'était cité que ça ressemblait beaucoup à ce que avait fait The Other au niveau du plot twist.
Ouais.
Fait que j'ai fait un plus un, puis j'avais comme déduit la fin. Fait que je vais avoir un regard un petit peu plus analytique de comme. C'était quoi la fin? Puis de toute façon, bon, pour ceux qui l'ont jamais vu, votre expérience va grandement diverger si vous connaissez la fin.
Oh,
ou pas.
Que oui.
Alors, on va spoiler le film en entier pour ceux qui sont peut-être nouveaux avec nous cette semaine. Donc, je vous conseille de regarder le film avant de nous écouter en parler, sinon ça va peut-être changer votre expérience.
Malgré le fait que tu connaissais déjà la fin, as-tu réussi à te faire peur? Serge, as-tu eu un pic qui a quand même réussi à te stresser?
À quand même quelques occasions, je trouvais que l'ambiance était vraiment, vraiment rushante. Probablement, j'avais comme sur-rationalisé à cause que je connaissais la fin, mais il y a une shot, là, la shot du cadre. La shot du cadre, j'ai vraiment fait le saut.
La face blanche.
Ouais, tu voyais comme une espèce de lueur là, dans noirceur. Tu voyais un visage, puis là, d'un coup, elle allume la lumière.
Ah oui.
C'est juste un cadre. Moi, j'ai vraiment jumpé à ça, là.
Le pire, c'est que ça me fait fucking rire que tu dis ça parce que j'ai mis une étoile. J'ai dit « Seb a eu peur quand voit le visage dans la peinture.
» Hey, j'ai pas mal fait la même affaire.
Non, honnêtement, c'est que ça saisit, là. Ça rend un inconfort de voir ça. Je sais pas pourquoi c'est autant efficace, mais c'est vraiment... Si les trois, ça nous a touchés, c'est que la scène est vraiment bien faite, là.
Ouais, puis c'est que l'espèce de noirceur qu'ils ont mis est vraiment bien cadrée dans le sens où... Tu vois la silhouette dans noirceur, tu sais qu'il va avoir de quoi, mais tu peux pas t'échapper au fait que ça te pogne en face. Sinon, la pièce aussi avec les draps blancs, là, bon, comme je connaissais la fin, j'ai été capable de voir au travers du subterfuge, mais elle était quand même bien montée, qu'il y avait quand même un bon stress dans cette scène-là. Là,
mais je suis surpris que tu n'aies pas mentionné la scène de la petite fille qui est rendue une grand-mère puis qui joue avec ses jouets, là.
C'était creepy, ça, mais j'ai pas jumpé. J'ai eu un stress, mais ça n'a pas été le plus marquant, je te dirais. Mais c'était quand même très intense. Mais la grand-mère est creepy tout court, là, celle-là.
Mais j'avoue, là, moi, personnellement, je suis allé le voir au cinéma, moi, à sa sortie.
Oui, moi aussi.
Okay, ça j'aurais pas été capable, probablement, par exemple.
Puis j'avoue, quand tu n'as aucune idée de ce qui se passe, tu sais pas qu'il y a un twist, tu n'as aucune idée de la fin, tu regardes le film, puis tu es toujours un peu... stressé parce que tu sais pas ce qui va arriver. Puis il me semble avoir vu la bande-annonce. Puis dans la bande-annonce, je pense qu'il montrait la séquence où la petite fille, elle devait avec les yeux blancs, là, genre la médium. Là.
Ouais, je suis pas sûr qu'elle montrait, ouais.
Je pense que oui. Puis je me souviens, par contre, au cinéma, tout le long, j'étais avec ma conjointe à la sortie. Puis d'être sorti en me disant « Waouh, c'était vraiment cool, c'était stressant, c'était vraiment anxiogène un petit brin. » Mais... deuxième, troisième écoute, ce film-là, à un moment donné, pas qu'il est pas bon, là, c'est un bon film, mais il perd sa valeur, puis le punch que tu as eu quand tu l'as vu la première fois.
Ouais, ça je suis d'accord.
J'espérais, mais le pire, pas être le party pooper du podcast parce que j'ai la même opinion. Parce que moi, j'ai une note de première écoute, puis j'ai une note pour la réécoute.
Ouais.
Tu sais, afin quand on va parler un peu de notre appréciation générale, ouais, je pense qu'on s'enligne tous sur le même diapason par contre. Là, mais outre avoir fait peur à Seb, Serge, est-ce qu'il y avait d'autres motifs derrière l'écoute?
Ben écoute, c'est sûr que moi, je voulais y aller avec un film qui était dans le genre d'esprit. Puis, tu sais, je suis pas un fan de... Ben, il y a une petite insight, là, c'est parce que Nicole Kidman, mon partner de balado, salut Bruno, il aime pas Nicole Kidman.
Ah non,
ah non. Ah non, il l'aime pas.
Tu savais que tu peux nous plugger ce film-là.
Ben oui, ben oui. Parce que je sais qu'il l'aurait fait un jour pareil, mais c'est parce que je savais qu'il l'aurait planté. Puis moi, je trouve que Nicole Kidman, personnellement, je trouve qu'elle a fait une maudite bonne job là-dedans, mais ça, tu sais. Mais
oui, oui, règle générale, à livre, Nicole Kidman, moi, je trouve, là, c'est une bonne actrice.
Oh oui. Puis en plus, ben, je sais pas si tu veux donner un peu d'informations, mec, là-dessus, mais c'est sûr, tu sais, c'est produit par Tom Cruise, puis je pense qu'il était, c'était sur le point là, de se séparer là, dans cette période-là.
Oui.
Puis
c'est la dernière collaboration.
C'est ça, hein?
Oui. Mais tu peux continuer, t'es une bonne lancée. C'est, pour ceux qui ne savent pas, là, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas encore découvert Terreur sur le pod, Serge, c'est une véritable encyclopédie de knowledge d'horreur, là, fait que. Si vous les aimez ça, là, il va parler là, en ce moment. Là, je vous invite à aller écouter Terreur sur le pod. Là, c'est, vous allez voir, vous allez en avoir d'autres exemples. Mais tu peux continuer, je te coupe pas.
Ben, mais écoute, Mick, je m'a travaillé la parole. C'est pas parce que tu me dis ça, là, mais c'est parce que moi aussi, j'ai dit oh, tabarnouche, plus j'écoutais vos épisodes, à un moment donné, j'ai dit j'en connais beaucoup. Mais c'est parce que moi aussi, notre podcast, parce que moi, je suis de la génération Halloween, puis Bruno est de la génération Scream. Fait que c'est vraiment cool, là, un peu le discours qu'on va avoir dans nos épisodes. Mais c'est sûr que moi, j'adore regarder tout ce qui est autour du film, un peu l'histoire. On parlait de Candyman un peu plus tôt, là, mais Candyman, c'est parce que moi, c'était un épisode où c'était un terrain de jeu, là, c'est mon corps et de sable.
Ouais.
Okay, il y a de l'histoire là-dedans, il y a du côté social et tout ça. Donc, fait que ça, moi, je trouve ça trippant. Mais pour revenir à The Others, c'est sûr que si tu regardes tout le ce que Nicole Kidman avait fait, puis moi, je sais très bien que tu es un fan de Kubrick.
Ouais, et ouais. Très évident.
Je pense que je... Et là...
Un petit.
Quand même un petit fan. Puis, et j'imagine que tu n'as pas détesté Eyes Wide Shut, j'imagine.
C'est un des Kubrick que je trouve qui vaut le plus la peine d'être écouté. Plus je l'écoute, plus je l'aime. Là. J'ai même été lire la nouvelle rêvée là, sur laquelle c'est basé. Là. Fait que, non, j'ai vraiment aimé Eyes Wide Shut.
Puis pour dire, c'est parce que Nicole Kidman joue avec Tom Cruise là-dedans. Puis moi, j'ai dit à Bruno, j'ai dit à un moment donné, on devrait le faire parce que c'est vraiment un film. C'est pas un film de Nicole Kidman. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Non, c'est ça. C'est un Kubrick, là.
C'est un Kubrick, littéralement. Tu vois pas. Moi, c'est pas Tom Cruise, c'est pas Nicole Kidman. Fait que moi, pour venir, là, c'est ça. Nicole Kidman, dans ce film-là, je trouve que c'est une super performance. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, puis on va en parler là, au courant du film, là, quand on va décrire le pas à pas, mais c'est vraiment une actrice qui, par moments, certaines personnes, je sais qu'ils ne l'aiment pas, là, comme Bruno, puis d'autres personnes que j'ai entendues, puis je peux comprendre, là, chacun ses opinions.
Ouais.
Mais on ne peut pas dire que c'est pas une bonne actrice. Je veux dire, il y a certaines performances qu'elle a faites, elle est vraiment bonne.
Bon, ben là, moi, c'est ça, tu parles de ça, je pense à The Others, c'est une de ses meilleures, mais je pense aussi à The Killing of a Sacred Deer, j'ai vraiment trouvé ça bon avec elle. Puis, il y a d'autres. C'est un
non,
film
pas
de.
Vu celui-là non plus.
C'est le même réalisateur que The Lobster, qui est Yorgos Lanthimos, quelque chose comme ça. Là, Yorgos.
J'ai vu The Lobster.
The Lobster, c'est le film où est-ce que si. c'est dans la société trafic, puis s'ils trouvent pas un. Ils se mettent pas en couple, ils se transforment en animal de leur choix, puis Colin Farrell, il choisit un mort.
C'est Colin Farrell, ok, ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais c'est ça. Mais écoute, moi, on pourrait parler du film, mais je vous dis tout de suite, moi. Dans cette histoire-là, c'est que je trouve qu'il y a tellement... Tu sais, comme un oignon, il y a plusieurs pelures là-dedans. Là.
Mm-hmm. Non, je suis d'accord.
Donc, c'est pour ça que je trouve que la valeur de réécoute sur ce fait-là est intéressant, mais il perd d'un autre côté parce que... Un peu comme Sixth Sense.
Oui, ben, c'est un bon comparatif, Sixth Sense, en fait. Là, parce que le punch du film en vaut pas beaucoup, mais moi, je te dirais qu'un des meilleurs aspects de la réécoute de ce film-là, c'est son ambiance gothique.
Oui, exact.
Ça, c'est toujours beau, toujours crissement intéressant. Toutes les shots extérieurs avec tout le temps du brouillard, puis tout le temps sombre.
La brume,
Tu te crois vraiment dans un roman, tu sais, ou un film de Vincent Price, là, ou un roman de d'époque là, que tu ressens. Ouais. Tu ressens ça.
Très anglais là aussi. Oui,
c'est ça. Exact.
Exact. Il campe bien le temps où le film a été ben, que l'histoire se passe.
Oui, exact. Ouais. C'est vraiment
ils font vraiment bien. Mais l'autre chose aussi que je trouve, c'est que si on regarde là, la réécoute, moi, ce que j'ai trouvé en réécoute, c'est aussi les phrases qu'à la première fois, tu ne catches pas.
Du sens.
Ils vont dire des phrases, ouais, c'est ça, on n'a jamais vraiment quitté la maison. Ben, tu sais pas ça la première fois. Là.
Tu veux dire les trois étrangers qui viennent, là, des choses comme ça, là?
C'est ça, exactement. Ouais. Mais là, quand t'entends ça, tu te dis au départ, OK, bon, ils n'ont jamais vraiment quitté. Mais quand tu le réécoutes, là, tu comprends. Fait que ça, il y a des films comme ça qu'une fois que tu l'écoutes deux, trois fois, tu te dis, ah, OK, je comprends là, qu'est-ce qu'il voulait dire au départ. Mais au début, t'es clos là, tu sais pas. Là.
Tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est comme ça que moi, je l'ai vécu le film, connaissant la fin, mais tu sais, sans être 100% certain de la twist au final, parce que j'avais pas vu le film, je cherchais tous les indices qui me pointaient vers ça. Fait que justement, quand elle dit. On n'a jamais vraiment quitté la maison. Quand elle parle qu'elle a vécu dans le temps de la tuberculose, puis là, moi, je ne suis pas un crack d'histoire, mais il me semble la tuberculose puis la Deuxième Guerre mondiale, c'est deux époques un peu séparées. Fait que là, déjà, tu as comme un premier indice. Puis c'est quoi qu'elle dit? À un certain moment, elle parle aussi que les morts et les vivants ne se mélangent pas bien.
Oui, exact. Puis là, tu es comme,
ah, pourquoi? Puis c'est ça, le fun, c'était de chercher toutes les petites craques à l'indice, tu sais, parce qu'au premier abord, on a clairement l'impression d'avoir un classique genre film de Poltergeist, là, Possession, oui. Maison hantée. On entend des bruits, mais on voit jamais rien. Il y a des pas à l'autre étage, des portes qui se ferment toutes seules, des choses comme ça. Puis bon, l'espèce de toc aussi de la mère qui renchérit là-dessus parce qu'elle veut être en contrôle pour protéger ses enfants. Là.
Mm-hmm.
Toute la table est vraiment bien mise là, pour une ambiance stressante un peu.
Oui, puis un des éléments que moi j'ai retenu, puis c'était la première fois, on dirait que peut-être que je retenais ça, c'est quand elle parlait de ses migraines, puis là j'ai compris, je dis ouais, je sais pourquoi qu'elle a une migraine.
Ah, j'avais pas catché.
C'est sûr qu'un coup de dose d'en face, ça te donne mal à la tête.
Ouais, Advil, je sais pas.
Hey Serge, mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est que mettons, là je t'ai demandé pourquoi t'as proposé ce film-là, mais c'était dans les films que, à un moment donné, je voulais initier ça un peu plus au justement la vague d'horreur qu'il y avait eu dans les années 2000. Avec, on pourrait dire, tu sais, justement, tout ce qui était, là, j'essaie de penser, mais Darkness Fall, le cercle, Rage Meurtrière, tout ce qui était du Japon. Puis là, en même temps, il y avait The Others, Sixth Sense, ces films avec des punchs. Puis The Others était dans un mois que j'aurais voulu faire de ça. Fait que j'étais vraiment content. Puis en même temps, comme toi, je l'ai vu au cinéma la première fois, puis j'avais trouvé vraiment efficace. Mais aussi, qu'est-ce qui arrive de ce film-là, qui fait que je l'aime beaucoup, mais c'est que ma conjointe que j'étais avec présentement, je l'ai connue quand j'avais comme 17 ans. Puis quand j'avais 17 ans, chez eux, m'amener, il y avait deux autres de ses amis, je me souviens plus, on était quatre en tout cas. Puis là, ils voulaient qu'on écoute un film, puis là, j'ai dit, ah, je peux te choisir parce que j'étais le crack de film dans le gang. Puis chez elle avait The Others. Puis j'avais mis une copie de The Others, fait que c'est le premier film que j'ai vraiment écouté avec ma conjointe. Fait que à cause de ça, il y a même une petite valeur sentimentale qui s'ajoute à ce film-là. Fait que déjà, j'étais. Quand tu m'as proposé ça, parce que tu m'avais proposé un autre film, hein, si je me trompe pas.
Je t'avais proposé aussi Apparence ou What Lies Beneath en anglais, là.
Oui, avec Harrison Ford, c'est celle-là.
Oui.
Ouais, c'est un super de bon film, pour vrai. Puis honnêtement, la scène du bain, on va revenir pour que Seb un jour il ait peur. Mais genre,
que oui.
Ben, je te dirais que j'ai peur assez souvent, là, mais.
Non, mais celle-là, ça m'a marqué plus, hein? De façon viscérale quand je l'avais vu puis j'étais jeune. Là. C'était.
Oh,
ça m'avait pogné en dedans. Mais c'est que à cause de l'aspect un peu émotif de The Others puis de l'attachement que j'avais avec, j'ai été pour celle-là.
Ah, ben je comprends pourquoi tu me dis que c'est parfait tout de suite, mais écoute, juste mini parenthèse sur What Lies Beneath, puis peut-être à un moment donné, si un jour je reviens, peut-être qu'on regardera celui-là ou vous le ferez, là. Mais c'est, tu sais, quand tu t'en vas voir un film puis tu n'as rien, mais rien lu, rien entendu.
Ouais.
Tu sais que c'est Michelle Pfeiffer puis Harrison Ford qui est là-dedans. Fait que tu t'attends à rien de ce genre-là.
Ouais. Puis le réalisateur aussi, Robert Zemeckis, il n'a pas vraiment fait d'horreur, là.
Ouais, mais je pense qu'il avait fait. C'est-tu le Frighteners? C'est-tu avant? Ouais, je pense que
non,
oui,
ça, c'est Peter Jackson, Frighteners, mais.
T'as raison.
Zemeckis, c'est Back to the Future, Forrest Gump. Fait que tu t'attends vraiment pas à un film qui, qui va faire peur, là.
Attends, le gars qui a fait Back to the Future a fait un film d'horreur?
Kind of.
Kind of. Okay. Ouais.
C'est deux thèmes complètement séparés. Là.
Ouais, ouais, puis je te dirais, moi, que je m'attendais à rien de ça. Je m'en vais là, puis je vous jure, là, j'ai fait une couple de sauts, puis c'est, j'en ai pas fait beaucoup, là, je vous dirais, là, des fois au cinéma, là, tant que ça, mais ça, je m'attendais tellement à rien que vraiment, là, j'ai eu des tensions, puis je suis allé le voir, je pense, deux fois en deux semaines, là. Mais... c'en est un qui est comme un peu particulier, comme... tu sais, honnêtement, là, je vais vous dire, underrated, sous-estimé.
Oui, c'est vrai, tu sais, j'attendais que tu fasses ta phrase pour le dire, ce film-là est underrated, moi aussi, je trouve.
Vraiment.
C'est un très bon film, là.
Il y a... Putain, vous avez piqué ma curiosité, là.
Il y a de la qualité partout, là. Il y a de la qualité dans l'acting, dans la réalisation, puis
c'est
un film quand même assez original. Moi, j'avais... Monsieur, et puis en plus... Je pense que je l'ai pas vu depuis quasiment un an après sa sortie. Là. Fait que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Là. Mais c'est l'aspect émotif en dedans de moi qui a lieu dessus.
ben oui, moi aussi j'ai plein d'émotions liées à ça. Je l'en parlerai un jour.
Mais sinon, c'est ça. Alessandro Amenábar, c'est un réalisateur. Je ne sais pas si Seb, je sais que tu as vu Vanilla Sky, si je ne me trompe pas.
Oui.
Serge, est-ce que tu as vu Vanilla Sky?
L'original, tu parles. J'ai vu les deux. J'ai vu celui avec
Tom Cruise
puis l'autre.
Oui, c'est ça. Ben, l'original, Abbas Los Ojos, c'est le réalisateur de The Others. Je ne sais pas si Serge, tu as vu l'original aussi?
Oui, mais ça fait un bout de temps là, avec Penelope Cruz.
Oui, qui joue le même rôle dans le remake et dans l'original.
Oui.
Pour vrai, les deux films valent vraiment la peine, selon moi, là, parce que Vanilla Sky a une kick-ass soundtrack. Puis. Je trouvais qu'il y avait des éléments meilleurs dans Vanilla Sky, mais beaucoup, beaucoup mieux dans Abbas Los Ojos. Comme je me souviens que Abbas Los Ojos a beaucoup de force versus Vanilla Sky, mais Vanilla Sky avait comme une soundtrack vraiment de la mort.
Oui, si je pense que c'était peut-être mieux tourné. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être mieux tourné dans... je pense que c'est Open Your Eyes en anglais. Là.
Ouais.
Je pense que, tu sais, si je regarde, je me souviens là, je me souviens d'avoir eu une ambiance différente. Puis dans Vanilla Sky, moi, je me souviens, je suis d'accord avec toi, la bande sonore, c'était écœurant. Ça n'a pas de sens. Musique, là. C'est vraiment super bon. Puis je pense que... Puis j'ai vu Tom Cruise différemment dans ce film-là.
Ouais, il est moins la star invincible.
Ouais. Exact.
Ouais, il joue moins son rôle de super-héros. Là.
C'est ça, ça fait du bien.
Exactement. Ça fait très du bien.
Ces deux films pourraient...
Ouais. Ça vaut la qualité d'acteur. Là.
Ça vaut la peine de faire l'exercice d'écouter l'original l'espagnol puis l'autre version, là, sans niaiser.
Oui.
Mais là, je sais que Serge, tu te renseignes beaucoup. Fait que, est-ce que je te challenge ça sur le budget ou on laisse Seb le faire?
Ben, le Seb, vous dites non? Ouais.
Pour celui-là, ben là, on a Nicole Kidman qui est comme... la tête d'affiche, mais
c'est une star déjà
les
autres, à cette époque-là.
C'est ça, c'est une star. Y a son mari, je pense, son visage le reconnaît, mais je suis pas certain que c'est vraiment... il est là comme 30 secondes, fait qu'il doit pas avoir pris beaucoup de budget. Réalisateur un peu connu, il a du passé. Est-ce que c'était un gros nom?
C'est son premier film américain.
OK. Bon, fait nouveau sur la scène. Moi, j'ai un feeling que si on a busté le 2 millions, là, c'est grandement exagéré comme budget.
Serge, tu en penses quoi?
Écoute, moi, je suis pas allé fouiller trop. Je suis allé fouiller sur le box-office global, que je vous parlerai à un moment donné si ça vous tente. Mais sur le budget initial, écoute, j'irais, je sais pas moi, avec un 6?
17 millions.
Oh my 17! God! Ah ouais!
Il n'y a pas des décors de fou là-dedans.
Mais le film a été filmé en Espagne. Fait que peut-être que le fait que ce soit en euros, je ne sais pas si ça a augmenté. Mais Nicole Kidman a filmé Kubrick. Là. T'sais, avant, on en parlait. Là, mais
Peut-être qu'elle, c'est 10 millions, juste à elle. Peut-être.
C'est ça. Ça ne m'étonnerait même pas, honnêtement, que ça soit ça. Oui. Tu sais, quand tu y penses, Seb, des fois, il y a des acteurs qui ont 50 millions là, pour des Marvel de ce monde.
Je comprends. Là. J'ai mal relativisé. Là. On dirait que je me suis fié à mon classique. Genre, des fois, on pogne des 2-3 millions, puis t'as des corps qui revolent, puis des bouts de parties, man, de reproduits, d'explosions. Puis en tout cas, des fois, on pogne des 2 millions qui ont tellement plus en termes de budget que ce film-là que je me suis fait avoir.
le box-office, justement, Serge.
Mais écoute, le box-office, puis ça a sorti quand même, je pense, au mois d'août 2001, là, ce film-là, je me trompe pas.
Ça se peut.
Puis, écoute, juste pour l'année 2001, puis c'était une grosse année en passant là, pour le box-office, là. Tu sais, t'as Harry Potter qui était en top pour 2001, là, à ce moment-là. T'as Harry Potter, Shrek, Monster Inc.
Festival, OK, ouais, des gros noms, là.
On s'entend, là, c'est une grosse année. Là, t'as Hannibal, là, qui t'a pas cité. Lord of the Rings.
Le premier?
Fellowship of the Ring, ouais, ça doit être ça. Oui, c'est le premier.
Ben oui, parce que je me souviens que Harry Potter et Lord of the Ring étaient sortis en même temps. Puis je me souviens que j'avais vu les deux au cinéma, puis j'avais l'impression que je devais choisir un clan.
Puis c'était quel clan finalement?
J'ai choisi Fellowship of the Ring, selon moi. C'est un masterpiece. Puis honnêtement, j'adore Harry Potter maintenant parce que ma conjointe elle adore ça. Puis on les réécoute souvent. Je réécoute plus souvent Harry Potter que Lord of the Ring, mais pour moi, meilleur film, toute catégorie confondue, c'est Fellowship of the Ring version longue. Là, c'est de la bombe.
Ah oui.
Ah, je l'adore. Ben oui.
Écoute, vous voyez que c'est une grosse année. Puis le premier Fast and Furious aussi qui est sorti.
Sans oublier Fast and Furious.
Écoute, tu sais, il faut le dire.
Ton préféré, Michael.
Ouais, mais c'est vrai qu'il faut le dire.
Et là, moi, c'est moi qui vois que ma valeur sentimentale. Parce que moi, j'ai rencontré ma femme, ma conjointe au début 2001.
Ah bon?
Puis le premier film qu'on est allé voir, c'est Cast Away avec Tom Hanks.
Ah, OK, bah, gros film.
Qui est sorti le 4 janvier, parce que je me souviens de la date. Donc, le 4 janvier 2001.
Bon pour toi.
Oui, je gagne des Airless. fait que là, oui, tout à fait, c'est Castaway à ce moment-là. Puis The Others, qui a sorti quand même au mois d'août, il a quand même fait 96 millions juste en 2001, là.
Solide, quand là. Même. C'est quasiment x5, x6, x6. Facile.
Ouais. Parce que mettons qu'il est sorti au mois d'août, puis il est 21e sur le rang, mais à 96. Je sais pas, écoute, est-ce qu'il a sûrement fait plus là, par la suite avec exactement, c'est mais c'est quand même bon, là.
Méchante année de box-office, pareil, pour eux, quand
mais
on
c'est
regarde
fou.
Ça même, là.
Quelle année! Moi, c'est pour ça que je suis allé fouiller, puis j'ai vu ça, il faut jaser ça avec les gars, parce que je me suis dit, c'est une année de fou, en fait, sortie.
Ah ouais?
Crime-moi, là. Seb, avant que tu nous diriges un peu dans le film, puis Serge, n'hésite pas à couper Seb aussi, s'il y a de quoi, là. Sinon, ouais. Je voulais juste vous dire qu'il y avait un remake de Bollywood qui s'appelait Home Kong High.
Oui!
C'est tout.
Ça a été refait.
Ça a été fait à Bollywood.
Oh, mon Dieu. Indien, nice. Ouais. Mais écoute, les Indiens, là, puis ils font des remakes complètement fous de plein de films qu'on connaît.
Ah oui, on n'en a pas idée. Hein,
mais qu'on n'a jamais vu.
Bollywood, c'est solide, là. Il y a du film en mot t'as dit qui sort de là, là. Puis sinon,
mais pas juste de la crap, là. Y a-tu des bons films qui sortent de là?
Moi, hey, Slumdog Millionaire.
Ben, OK, oui. Wow. Slumdog, mais moi, c'est le seul que je connais qui est vraiment
Bollywood pour
ressorti,
vrai,
là, qui s'est rendu jusqu'à mes oreilles, du moins.
Tu sais, on pourrait dire qu'exemple, les Américains ont rip-off le giallo avec les slashers, puis il y a des rip-offs qui se fait, mais Bollywood rip-off tout qu'est-ce que Hollywood fait.
Ouais.
Littéralement, sans égard.
Toutes catégories confondues. Tu sais, souvent, exemple, t'avais le western aux États-Unis, puis là, t'as le western spaghetti en Italie. Fait que là, les Américains, ils ont copié le slasher à part le giallo, puis plein de choses comme ça, mais là, Bollywood, eux autres, ils sont pas regardants. Là. Ça a marché, on va faire un Bollywood. Ouais, vraiment, là. Puis Serge, ça ferait que tu parlais de Tom Cruise, là, puis justement, j'ai vu qu'il était producteur de The Others. Qu'est-ce qui arrive, c'est que d'après moi, ça a pas mal à voir au fait qu'il a dit « Je vais te donner du cash pour faire The Others en masse, mais tu me donnes les droits d'auteur moins chers pour faire mon Vanilla Sky, qui était producteur aussi. » Je suis pas mal sûr que c'est ça qui s'est
passé. Je suis pas mal sûr, moi aussi.
D'un ficelle, là, derrière l'écran, là.
Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que dans les coulisses, il a dû dire il y a eu une petite passe-passe de même, puis c'est pour ça, parce que, tu sais, à un moment donné, il a dû vouloir aller dans des films, entre parenthèses, d'auteur, tu sais, des films plus underground un peu, puis de dire « Hey, je veux aller dans d'autres ranges », puis c'est peut-être là qu'ils ont négocié. Ça me surprendrait pas de Tom.
Non, exact.
Il y a le même Tom.
Tom, ton friend.
Tom.
Fait que, Tom. Seb, The Others, là, je sais que, par contre, ce film-là, il y a bien des éléments qu'on va peut-être skipper. Parce qu'en même temps, il y a tellement de conversations. C'est super intéressant dans le film, mais en même temps, vous parlez d'une conversation, c'est comme Inception de conversation, ça peut devenir plate.
Oui, vraiment.
Conversation sur une conversation dans une conversation.
Oui, je te fais confiance pour nous guider là-dessus puis skipper les conversations qui peuvent être inutiles des fois.
donc on arrive à la fin, si tu veux.
Elle rallume les lumières, dit.
J'ai tellement le goût de tout dropper à la fin pour mettons dire.
Oh, ça... oui.
Mais on a été bon parce que jusqu'ici, je pense qu'on n'a pas trop spoilé. Fait que les gens qui sont encore avec nous puis que vous n'avez pas encore vu le film, c'est le temps de décrocher puis de revenir nous voir parce qu'on va commencer à spoiler l'entièreté du film à partir de maintenant.
Ouais, parce que le film est quand même. Je pense qu'on a un consensus, même avant de se l'avoir dit, il est quand même un peu meilleur à première écoute sans savoir le punch. Fait que si vous pouvez pas savoir le punch, allez le voir.
Ouais.
Bien d'accord.
Fait que la scène d'introduction, on a un genre de dessin, puis ça parle de l'histoire de la Genèse, si je me trompe pas. Il y a comme une fresque. Puis ça ouvre avec le cri de Nicole. Nicole qui crie. Je me souviens plus c'est quoi son nom de personnage.
Je l'appelle Nicole, moi aussi, tout le long.
C'est Nicole, hein? Bon, c'est Nicole.
Serge, là, le problème, c'est que même si t'as retenu Grace, moi et Seb, on a tout de suite écrit les deux Nicole. Fait que on va plus l'appeler autrement que Nicole.
Appelons-la Nicole, ça ne me dérange pas.
Puis je me souviens que ça m'a saisi parce que, bon, je m'étais installé tranquillement, puis c'est rare que tu aies un genre de stress direct à la seconde 2 du film. Fait que ça m'a obligé à le prendre au sérieux dès le départ. Là.
Mm-hmm.
Fait qu'elle crie, elle se réveille. Puis là, si je me souviens bien, tout de suite, on coupe vers les gens qui cognent à la porte. Ouais, c'est ça. OK, t'avais parlé de ça.
Non, c'est ça. C'est juste... j'ai vu que ça, moi, les 3 nouveaux employés arrivent.
Exact. Les 3 nouveaux employés arrivent, puis là, elle leur décrit, bon, OK, vous êtes 3, good. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de travaux-là? Oui, bon. Là, elle explique un petit peu son histoire, comme quoi qu'elle est sans nouvelles de son mari, puis que son mari est parti à la guerre, puis qu'elle s'occupe de ses enfants, puis qu'elle a besoin d'aide. Donc là, ces 3-là se sont pointés pour répondre à l'appel. Elle leur propose de faire le tour de la maison, puis là, elle leur explique qu'elle n'a pas l'électricité et puis que ses enfants sont allergiques au soleil.
Le pire, c'est que c'est une vraie maladie, ça. J'ai été lire, là.
Ouais.
Oui.
Ouais, mais supposément qu'il y a comme juste 100 personnes sur la Terre, 1000, 100 ou 1000, en tout cas, vraiment rare sur la Terre entière que ça, là. C'est hyper rare.
Ouais.
Puis elle serait vraiment pas chanceuse que ses 2 enfants l'aient eu en plus. Là.
Ouais. Moi, là, mon idée, c'est que je pense qu'elle... Tu sais, tu parlais un peu plus tôt, Seb, qu'elle est contrôle. Je pense, bon, on le voit, là, c'est une contrôle freak, là.
Mm-hmm.
Puis moi, je pense que c'est pour garder ses enfants vraiment à la maison, qu'ils sortent pas trop. Moi, je suis pas sûr qu'ils ont vraiment ça dans leur première vie.
C'est ça que je me suis posé comme question. Est-ce que le fait qu'ils soient allergiques au soleil, c'est Nicole Kidman qui est un peu consciente qu'ils sont des fantômes et qu'elle a peur de les perdre, puis que c'est son subconscient à elle qui sait qu'il y a un danger pour eux, puis elle a peur qu'ils s'en aillent, ou si... c'est un peu la raison dans le genre que dans la réalité, ses enfants étaient allergiques au soleil, puis ça a pris une tournure vraiment dramatique pour elle qui l'a amené à poser le geste.
Moi, j'ai vu
c'est
ça comme
que
ça.
Je trouve qu'il n'est pas certain.
Moi, j'ai vu ça comme ça, en fait. Je pense que c'est intéressant, Serge, que tu as amené. Ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'elle fait ça à cause qu'ils sont fantômes, parce que la façon que le film est tourné,
non, moi non plus.
Je pense pas que ce soit une condition qu'à cause qu'ils sont fantômes qu'elle fait ça. Une des deux hypothèses, ça serait justement que... Peut-être qu'ils n'ont jamais eu cette condition-là, puis que ça n'allait pas bien dès le départ, puis qu'elle a juste ajouté ça pour les couper du monde. Ouais. Ou bien, il y avait cette condition-là, ça l'a coupé Nicole Kidman du monde, puis à cause de ça, elle a viré sur le top, puis elle s'est donné des migraines.
Parce qu'au début... parce qu'au début, quand elle explique le principe des rideaux puis des portes aux nouveaux employés, tu sais, elle appuie sur le fait que c'est vraiment difficile au début, mais qui allait finir par s'y habituer. Puis tu vois que c'est un peu empreint d'émotion de la façon qu'elle dit, comme si elle vivait, elle, que c'était dur, puis qu'elle elle disait qu'il allait passer par-dessus, mais on dirait qu'elle y croit pas vraiment quand elle dit, là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
Ouais, puis d'ailleurs, si tu me permets, Seb, il y a une phrase, on disait tantôt des phrases que tu réécoutes, après tu dis « Ah, OK, je l'ai catché cette fois-là. »
Ouais.
Madame Mills, qui est la aide des domestiques. Là,
la seule, j'ai retenu son nom.
Ouais.
Miss Mills.
Miss Mills, qui mentionne que Lydia, a dit, ah, elle est plus âgée qu'elle en a l'air.
Oui, la muette, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai qu'elle dit ça.
Des petites phrases là, quand tu réécoutes après, tu dis, ah, y a no shit. Hein.
Puis aussi, quand elle lui dit, au fond, ben, y a un certain moment, un petit peu plus loin, où elle les confronte, elle lui dit, ben, comment vous avez fait pour répondre à mon appel de service, puisque la lettre s'est jamais rendue.
Ouais.
Puis là, son explication te donne un autre indice, encore une fois, mais je trouvais qu'elle était quand même bien... elle s'en est quand même bien sortie. Elle dit qu'ils ont déjà servi dans cette maison-là, puis qu'eux voulaient revenir là. La réalité, c'est qu'ils ont probablement jamais pu quitter le
périmètre
de la maison.
Non, tout à fait. Puis je tiens à préciser aussi qu'elle dit qu'il y a 15 clés pour 50 portes, hein?
Oh boy, c'est-tu important, ça?
Ben, moi, c'est juste de dire à quel point que, tu sais, quand on parle de Control Freak, là,
ouais.
Tu sais, tu dis, crime, de 1, 15 clés, 50 portes, t'as-tu besoin de ça? Tu sais, pour vraiment, là, comme...
Ouais, contrôler.
C'est ça, puis là, je me dis, c'est du Control Freak. Puis c'est sûr, quand tu regardes la fameuse condition là, de, il appelle ça de la photosensibilité, puis je vais vous dire un terme, le xeroderma pigmentosum.
Ça, c'est genre le latin de photosensibilité.
Ouais, c'est à peu près ça. Mais je suis allé voir des photos aussi, puis je vous dis tout de suite, si vous allez voir des photos, c'est pas très beau, hein?
Ah non?
Comme des grosses rashes, là. Des
gros rashes. Ouais, puis même, il y en a qui pognent des problèmes dans la cornée, là. Puis une photo que j'ai vue, c'est qu'elle n'avait plein, puis elle avait les yeux rouges, là.
Oh boy.
Fait que je comprends qu'elle ait peur un peu là, de, par rapport à ça, mais bref, mais c'est ça.
Une des grosses forces du film, j'ai trouvé justement, là, on parle qu'il est control freak, Nicole Kidman, mais c'est justement ta affaire. En entrée de jeu, son personnage te tape ses nerfs, mais plus le film avance, plus tu sympathises avec elle, puis on dirait que tu sympathises encore plus avec elle, même quand tu sais la fin, la finalité.
Ah ouais?
Je sais pas.
Moi, on dirait que non. On dirait qu'au début, elle m'agressait. Puis finalement, on dirait que son côté maternel a comme pris le dessus. Puis là, j'étais comme, OK, ben oui, elle fait tout ça. Tu comprends comme par la force des choses qu'elle fait tout ça parce qu'elle aime ses enfants puis elle veut les protéger. Puis ça m'a choqué finalement de connaître la fin puis de savoir que c'est elle qui a... Parce qu'au final, elle est tombée de l'autre côté, tu sais. Puis elle a beau aimer ses enfants vraiment fort... Elle a quand même posé un geste, tu sais, super intense.
Je sais que c'est tough avoir de la sympathie pour ce geste-là. Là, mais ce que comme, je veux dire, c'est que...
Moi, ça m'a choqué au final. J'étais comme, ah, tu sais, j'avais de la sympathie pour elle. J'étais comme, je comprenais son struggle jusqu'à la fin où c'est comme confirmé ce qu'elle a fait. Puis t'es comme, ah...
Mais c'est qu'on dirait justement que ça fait tellement cheminer avec elle que tu vis un peu comme son cheminement, vraiment. Tu sais, on dirait, je sais pas, on dirait que tu passes de pas l'aimer... à comprendre tout ce qu'elle vit, puis à sympathiser avec elle, sa terreur, tout ce qu'elle essaie de faire pour ses enfants. Mais comme tu dis, on peut pas sympathiser avec le geste qu'elle a posé. Ouais, mais on dirait que le film m'a tellement apporté loin que, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un des éléments forts du film, justement. De comme
t'as fini par tomber du côté qu'elle est aussi victime d'elle-même, au final.
Exact.
Je pense comme accepter son geste puis son cheminement, là.
Ouais, puis encore, tu sais, on a fait des suppositions tantôt, mais on sait pas réellement ce qui l'a poussé. On a quelques idées, mais tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est présenté super clair à la fin.
C'est
pourquoi,
dit.
Là.
C'est jamais dit.
Non. C'est ça, hein?
C'est vrai.
On sait pas si c'est... C'est vrai qu'on a jamais cette réponse-là. Si c'est vraiment qu'elle a tilté ou peut-être qu'elle a eu une nouvelle, au fond. Peut-être qu'avant de s'enlever la vie, elle savait un peu l'état de son mari. Là, il était peut-être plus missing in action, puis c'était confirmé. C'est peut-être ça qui a pesé sur la switch.
Dernier bouton. Ouais.
On revient un peu au film. Si je me souviens bien, les scènes qui suivent, on voit un peu la mère qui donne des leçons de catéchisme à ses enfants. Cette scène-là, elle est le fun parce que t'as encore
écrite.
Une fois... elle est bien écrite. Puis t'as un peu des éléments, justement, de qu'est-ce qui se passe avec un pas de recul, où, bon, elle explique un peu que c'est pas bien de mentir, puis même si tu mens pour le plus grand bien, mettons, aux yeux de Dieu, t'as posé quand même un geste, un péché, et puis elle explique qu'il existe les limbes, puis que les enfants qui mentent vont dans les limbes, puis ils se rendent jamais au paradis. Puis ça, quand tu connais la twist, c'est super significatif comme scène parce qu'elle sans le vouloir, sans le savoir elle-même, elle explique où est-ce qu'ils sont. Ils sont clairement dans une limbe en réalité. Là. Ça, moi, cette scène-là, avec un pas de recul, est très, très lourde en termes de sens. Puis est très, très bonne, j'ai trouvé.
Oui, je suis d'accord. Puis aussi, à un moment donné, je me souviens plus avec qui elle dit ça. C'est Anne, c'est la petite fille. Elle mentionne qu'elle dit My mother went mad.
Mm-hmm.
Elle mentionne que sa mère est devenue un peu instable. Je ne sais pas si elle dit ça à son petit frère Nicolas.
Je pense qu'elle dit ça à Mrs. Mills,
hein?
Ouais, c'est à elle qu'elle dit ça.
Fait que au départ, tu dis OK, ça se peut, elle a pété un plomb, mais tu ne sais pas le niveau de plomb qu'elle a pété à ce moment-là. Là. Mais ça, comme je te dis.
On va tout le temps jouer avec des moves sur sa façon de mourir.
Ouais, ben c'est parce que c'est un peu ça à un moment donné. C'est parce que tu dis OK. Moi, au départ, tu le sais pas, mais quand c'est une autre phrase, quand tu entends ça, tu dis « You bet, it went mad ». Mais moi, c'est justement quand on la voit un peu plus tard, parce que Mme Mills, elle a un côté très maternel quand même avec les enfants.
Oui,
c'est vrai.
Que Grace n'a pas nécessairement... elle l'a, mais tu vois que c'est très autoritaire comme approche, là. À ce moment-là, qui était pas mal l'époque, on s'entend?
Oui, ben c'est ça, je m'allais dire. On dirait que c'est typique de l'époque, dans le sens où elle, c'est son rôle de mère, c'est de s'assurer que ses enfants soient bien élevés. Mais s'occuper de ses enfants, c'est plus le rôle de la De la nounou au fond.
Exact.
Fait que faire à manger, c'est en dessous de Nicole, là, carrément.
Ouais. Ouais. Puis moi, je sais pas si vous avez vu, mais tu sais, quand justement, il parle du catéchisme, je sais pas trop ce qu'ils font comme leçon, il parle de Justus et Pasteur. Mais tu sais, qu'ils sont allés. Puis j'ai trouvé ça, cette dualité-là, intéressante parce qu'ils parlent de deux enfants qui ont dit oui, nous, on est chrétiens, puis se sont fait décapiter finalement. Puis dans la vraie vie, c'est comme ça s'est passé. Là. Donc, deux enfants de 12 et 9 ans qui ont été décapités parce que selon leurs croyances. Puis justement, ces deux enfants-là, quand tu regardes ça, tu te dis OK. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, les deux, tu sais, ils disaient ouais, mais moi, j'aurais menti. C'est pour survivre. Elle dit, ah, vous aurez menti, vous autres.
Vous avez laissé votre foi.
Comme ça, vous allez aller dans les limbes. Puis plus tard, ça revient, tu sais, quand elle va parler plus tard de, tu sais, je pense à sa fille. Puis justement, Anne, au départ, je la trouvais un peu tête de cochon, mais tu sais, elle tient tête à sa mère sur plusieurs points, là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, quand elle va lui dire, tu sais, comme, tu sais, tu nous as dit ça, puis ça, c'est pas vrai, là. Donc, elle parle justement de cet élément-là dans les limbes. Tu sais, tu as dit, ah, faut pas croire ce qui est dans les lits. Tu demandes de croire à la Bible. Puis ça, là, honnêtement, je sais que c'est très bon dans le film, mais moi, dans la vie en général, quand les gens parlent juste de la religion pour parler de certains éléments, des faits, puis tout ça, ça vient un peu me chatouiller, puis ça vient un peu me taper ses nerfs en passant.
Ouais, mais mettons, dans le film, t'en as retiré quoi de ça?
Ben, moi, je sais, c'est une thématique centrale. C'est la foi. Vraiment. Pour moi, c'est un des thèmes là, du film. Puis,
ben,
je
selon
sais
moi,
que...
c'est le thème principal, en fait.
Ouais, c'est le thème principal, exactement. Puis, moi, c'est quelque chose que je comprends dans le film, mais que moi, à chaque fois qu'elle amène ça, puis je sais que pour l'époque, c'est normal, mais que j'ai toujours un petit... je sais pas, là, ça vient me chatouiller, ça vient me graffiner un peu, parce que je me dis...
Mais d'abord, tu as trouvé la fin satisfaisante, c'est... parce que la fin apporte que tu peux avoir aucune réponse.
Exactement.
C'est ça qui est super intéressant. Là.
Puis c'est pour ça que j'ai aimé, plus que ça allait, plus j'aimais la petite fille Anne.
Oui, parce qu'elle est plus rationnelle un peu.
Exact.
À mettre de côté, elle a beau avoir été élevée manifestement par le catéchisme, elle met en perspective, puis elle pense, elle a comme plus un instinct de survie, on dirait, là, plus rationnelle, genre, ben moi, je vais mentir pour protéger ma survie à moi, tu sais. Puis on ne sait pas si elle a toujours eu ce trait de caractère-là ou c'est le fait que elle aussi, secrètement, elle est consciente qu'elle est morte.
Mais Anne, elle a l'air plus consciente qu'elle est morte depuis le début. Elle aime moins sa mère. Ouais. Elle chuchote de quoi à la bonne. C'est elle qui dit « she went mad ».
Exact.
Elle a l'air quasiment consciente qu'elle est morte depuis un bout. Là. C'est juste dans la scène où est-ce que on apprend que les servants, finalement, ça serait des méchants. Là, que c'est ça que le film veut te faire croire quand le pierre tombale sont là. Là, elle acte comme si elle avait peur. Puis c'est moins congruent avec cette hypothèse-là. Mais le reste du film, on dirait qu'elle, elle sait qu'elle est morte. Là.
C'est vrai.
Ouais, la plus consciente, c'est sûr, là, des trois, parce que c'est tu la vois, là, puis justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, l'interaction avec Mrs. Mills, parce que Mrs. Mills, tu sais, elle est très, elle sait ce qui se passe, évidemment, depuis très, très longtemps, puis Anne, quand elle lui parle, tu sens que Mrs. Mills, elle voit que Anne est très lucide, puis que, tu sais, ils disent même un peu plus tard, tu sais, ça va être moins difficile de convaincre les enfants, puis Anne en particulier, que la mère.
Ben, c'est vrai qu'ils ont cette conversation-là.
Ben, mes gens de parenthèse, hein, là, ça vient fou.
Est-ce qu'on parle de l'enfant qui pleure?
Ouais, mais c'est ça, je pense qu'on est rendu là, en fait, parce que Nicole Kidman entend un kid qui broille.
C'est le début des phénomènes paranormaux. Si on le prend comme dans l'ordre du film, c'est vraiment le début l'apparition des phénomènes paranormaux dans leur vie. Donc, on entend l'enfant qui pleure, donc Nicole est... qui capote là, parce qu'il y a un de ses enfants qui pleure, veut savoir c'est lequel, puis qu'est-ce qui se passe. Finalement, il n'y a aucun des deux qui vraiment pleure. Puis si je me souviens bien, c'est la première fois que Anne mentionne que c'est Victor qui pleure.
Oui, c'est la première fois.
C'est ça?
Oui.
Puis là, on est introduit à un personnage qu'on ne connaît pas, qui est, de notre point de vue, manifestement un esprit d'un enfant qui s'appelle Victor. Là.
Ouais.
Il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter que ça. Puis, ah oui, puis si je me souviens bien, Nicole, elle capote parce qu'il y a une porte qui était comme laissée ouverte. Et puis, elle avait clairement donné instruction de laisser toutes les portes fermées. Donc là, elle se venge un petit peu sur les servants. Au souper le soir même, il parle, il demande est-ce que Victor c'est vrai, puis t'as-tu menti?
Ouais, elle jure que non, sa mère.
Elle jure que non,
exactement. Sa mère, elle dit, tu vas être punie parce que c'est impossible, puis elle la croit pas. Fait qu'à cause de ça, elle lui fait réciter des prières, puis elle lui fait des conséquences.
Des saluts Marie, si je me souviens bien.
Exactement, ouais. Exactement. Puis elle l'envoie m'emmener dans les marches pour aller lire, là. Fait que reste là. Je sais pas si elle restait là 3 jours, mais... Tu sais, il parlait de 3 jours, en punition. Tu dis, hé! OK.
C'est vrai. C'est sévère.
C'est un petit brin sévère.
C'est pas les punitions de 2021, là.
Oh non, loin de là. Il n'y avait pas à strap à ce moment-là, Nicole, mais c'était sévère quand même.
La discipline a changé depuis, là.
Un petit brin.
Fast forward à la scène, au fond, où ils sont... Parce que les deux enfants dorment dans le même lit, dans la même chambre. Et puis là, si je me souviens bien, Anne se réveille durant la nuit, puis elle dit qu'elle réveille son petit frère, qui, je me souviens plus de son nom non plus.
C'est Nicolas.
Ouais,
Nicolas. Ouais. Puis là, il dit que Victor est derrière les rideaux. Puis là, il dit, arrête de niaiser, là, c'est pas drôle, tu sais. Puis finalement... Elle dit, ben vas-y, lève-toi, puis va voir Victor. Moi, je le vois, il est derrière les rideaux. Puis finalement, Victor leur répond. Fait que là, t'es comme officiellement, Victor existe.
Oui.
Puis finalement, une petite scène avec une belle petite tension où tu vois la main de Victor qui touche la joue de Nicolas. Puis Nicolas qui se réveille en sursaut. Là. Moi aussi, je capoterais un peu.
Qu'est-ce qui est plat pour toi, Seb, c'est que t'as pas réalisé à quel point cette scène-là est quand même relativement bien écrite d'un point de vue scénario. Parce que quand tu connais pas le punch, dresse Anne comme étant vraiment une petite crisse.
oui.
Cette scène-là rend confondant si elle est en train de vraiment imiter la voix
de le niaiser,
du petit gars ou pas. Puis si elle niaise encore comme quand elle essaie de le faire peur avant au souper et dans toutes les autres scènes, fait, toi, tu savais déjà qu'il allait avoir quelque chose. Mais quand, moi, je ne sais pas dans le film, tu sais que tu t'attends un film comme ça, mais en même temps, tu es comme, OK, elle niaise-tu encore ou est-ce qu'on... Parce que c'est pas encore
une vraie
proof d'apparition, là.
Exact. Puis la main, ça aurait pu être celle de Anne aussi, mais pas nécessairement. T'sais.
C'est ça. Puis elle a peut-être des très bons. Elle est peut-être très bonne en imitation, mais c'est parce que là, tu clairement, tu entends une voix, tu dis OK, c'est une autre voix. Puis lui, il n'arrête pas de dire niaise-moi pas. Puis elle qui avait dit un peu plus tôt aussi, elle dit tu sais, les fantômes, Victor, c'est pas un fantôme. Puis là, il dit pourquoi? Ben, il dit les fantômes, ils portent des draps blancs puis transportent des chaînes.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais, il a dit ça.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Le lendemain, elle se fait punir parce que tout le monde pense qu'elle a été maligne. Puis c'est là où elle s'assoit dans les marches. Puis Nicole entend des bruits de comme s'il y était de 2-3 personnes exactement à l'autre étage. Puis elle dit, ben là, Lydia, peux-tu arrêter de faire du bruit? J'essaie de lire. Puis elle se rend compte que Lydia est dehors. Fait que officiellement, elle est confrontée avec le fait qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa maison puisqu'elle sait très bien, elle, où se trouvent Anne et Victor. Puis elle sait maintenant que Lydia n'est pas là. Automatiquement, c'est quelqu'un qu'elle connaît pas qui court à son deuxième étage. Là. Fait que, si je me souviens bien, elle court et elle va chercher un shotgun. Elle est quand même à l'aise hein, avec le shotgun.
Nicole est bonne. Là.
She got a big gun.
She got a big gun.
Hey, mais écoute, moi, la scène que j'ai trouvée efficace aussi, c'est quand elle réalise, justement, tu dis que Lydia était dehors pour parler avec Mme Mills, là, et que la caméra part du bas puis vers le haut, vers le plafond. Là.
Ouais.
Je trouve que c'était super, vraiment bien filmé, puis ça met de la tension. Là.
C'est vraiment énergique aussi, là, comme versus le reste du rythme du film qui est quand même lent. On dirait que tu sens l'urgence, justement, de la façon que c'est filmé.
Là. Ouais, c'est une des bonnes scènes.
Si je me souviens bien, au moment où on revoit le plafond, tu réentends les bruits de pas. Là, fait que c'est comme confirmé. Là. Puis après ça, la scène d'après, c'est la scène du drap blanc.
Ouais.
Ça, honnêtement, elle est quand même intense, cette scène-là. Là. Vraiment une belle tension. Là.
She's a woman. Ah ouais. She's here.
J'aurais pas trippé. Ne pas savoir. J'ai été un petit peu désamorcé par le fait que, bon, je savais que c'était elle qui avait plus de chances de faire peur à quelqu'un d'autre, mais honnêtement, l'avoir vu au cinéma, cette scène-là, j'aurais vraiment fucking bad trippé.
Ah, moi, c'était la scène de la petite fille en mémé que j'ai eu la chienne quand j'étais kid. Là. J'avais écouté ça. 2001, justement, je l'ai écouté quand il est sorti au cinéma. Là, fait que j'avais 8 ans, 8-9 ans. Là, fait que. J'ai chié dans mes shirts.
Ah, c'est
moi,
sûr.
Moi, je donnerais pas mon âge, mais j'ai fait à peu près la même chose que toi. Mais c'est sûr que...
Ça fait longtemps que t'avais plus de couches, toi.
J'en avais plus solide, mais je pense qu'il y en aurait fallu peut-être pour ce film-là. Mais la scène des draps, comme tu dis, moi, je me souviens, ça avec, j'étais stressé parce que tu dis, OK, qu'est-ce qu'il va avoir? Puis surtout que t'entends des voix, hein?
Ouais,
puis c'est quand même assez efficace, des chuchotements.
T'es tellement vulnérable, là. Je veux dire, tout est couvert par des draps, tous les items que tu vois dans la scène est potentiellement menaçant pour toi quand tu regardes cette scène-là. Exact. C'est vraiment ça qui se passe. Puis, une autre belle analogie, c'est dans... c'était quoi déjà le film avec le miroir, Mick, le nom?
Oculus.
Dans Oculus, là, quand il y a des... Elle voit le miroir pour la première fois puis qu'on voit des œuvres d'art qui sont couvertes.
Oculus, mmh. C'est vraiment vrai. Intense. Si tu ne sais pas, c'est un de nos last épisodes parce que c'est extrêmement compliqué à suivre dans un podcast.
J'imagine, hein?
À cause des back and forward, ouais. Moi et Seb, ouais. On a fait l'exercice. Excellent film, je le conseille tellement, mais c'est un de nos last épisodes.
Ah oui, hein?
Il n'est pas suivable.
Ah, un jour, peut-être en extra.
Ouais, qui sait. Mais ouais, Seb, sinon, après ça, t'as encore de quoi que si ma petite fille m'amenait un dessin de ça, je chierais encore dans mes shirts. Et... Le dessin.
Ah oui, hein?
Qui a dit, ah, ça, c'est le nombre de fois que je les ai vus, puis elle dessine toute la famille, en fait, qui est. Là, à cette statue, vous avez bien compris que Nicole était morte et que finalement, les fantômes, c'est... Ceux qu'on pense être les fantômes, c'est les humains et vice-versa. Mais là, elle a dit qu'elle a vu plusieurs fois. Fait, là, il y a des nombres à côté puis t'as le dessin d'une vieille grand-mère, justement, avec des cheveux ébouriffés puis super diabolique. Puis il y a marqué qu'elle a vu combien de fois déjà? 14 fois.
Je pense que c'est 14 fois, c'est ça. Ouais,
14 fois. Moi, j'ai eu des frissons, par exemple. Là.
Ouais, mais c'est ça. Là, c'est...
Ben ouais.
J'ai dit... Même en le sachant, la grand-mère est quand même freaky. Là.
Un bon dessin d'enfant dans un film d'horreur, toujours creepy.
Oh, oui.
C'est son innocence. Tu peux te dire qu'il l'invente, mais c'est quoi les chances qu'il soit assez créatif pour ça?
C'est ça.
Comme à son âge, c'est.
Là, comme on a dit, il y a d'autres scènes de tension, puis Seb a eu peur d'un visage que dans une peinture.
Quand tu le dis comme ça, ça me place pas sur mon meilleur jour, mais ouais, j'ai quand même eu la chienne.
Ben, si j'ai pris la peine de le noter, c'est que moi-même, j'ai vécu un inconfort. Parce que si j'ai vécu un inconfort, je me suis dit, Seb va pas triper pantoute.
Exact. Ben, mais l'autre inconfort aussi, c'est les photos. Ben, tout de suite après, c'est les photos avec les morts. Là.
Ça, c'est ça.
Moi, je capoterais. Là. Si je tombais là-dessus dans ma maison, là, un vieux cartable avec des vieilles photos de gens morts, là, je le brûle. Je ne sais pas ce que je fais.
Moi, je vais vous dire, là, j'avais une tante qui avait une photo, je pense, de son grand-père ou arrière-grand-père, je ne me souviens pas trop.
Comme ça?
Non, il n'y avait pas les yeux fermés, mais juste ça, quand j'allais dans la pièce, c'est qui était la photo, je la regardais, puis tu sais, on dirait que tu as l'impression que tu la regardes tout le temps.
Ouais.
Puis là, je regardais, puis juste le fait que c'était ancien en noir et blanc, mais brun et blanc, là.
Ouais, ouais.
Juste ça me rendait mal à l'aise. Fait qu'imagine, moi, de voir les photos, puis les personnes, tu te dis, OK, ils dorment pas, ils sont morts, puis ils ont filmé.
Ah!
Ils ont pris des photos de ça. C'est macabre. T'sais, elle l'a dit elle-même, je pense, grâce à Mano. Macabre. Là,
mais ça, vous savez qu'il le faisait pour vrai?
Oui.
La raison était que la photographie, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Puis c'était une de leurs seules façons d'avoir un souvenir de la personne décédée parce que c'était probablement la seule photo qu'il allait avoir d'elle. Fait que souvent, exemple, si c'était un enfant qui décédait puis que son jouet préféré, c'était un ballon rouge, il mettait le ballon rouge dans ses mains puis prenait une photo avec ça ou des choses comme ça. Fait que ça a vraiment existé. Puis dans ces photos-là, ben, le réalisateur est sur une des photos.
Ah oui?
Ouais. Ah oui? Je savais pas.
Il s'est fait faire son petit caméo là-dedans.
Ah! Quand je vais réécouter, je vais aller voir juste ce bout-là. J'étais un peu curieux. Mais l'autre affaire aussi, puis des croyances religieuses, puis ça, c'est vrai que ça existe aussi, c'est qu'il y en a qui ont vraiment l'impression que l'âme reste dans la photo.
Aussi.
Mais le filtre, puis l'aspect de la photo aide beaucoup à ça.
Ouais.
Je pense pas que tu verrais une photo de... mettons, plus moderne, puis que tu auras encore ce feeling-là. Je pense que c'est vraiment dû à la technologie de l'époque un peu plus.
Ah, ouais, je suis
j'ai l'impression.
Ouais, moi aussi, je trouve.
J'ai l'impression.
C'est un consensus.
Exact.
Yeah.
Mais, et en passant, c'est pas le Necronomicon, hein?
C'était le livre-là? Non.
Non.
C'est parce qu'il dit c'est le Book of the Dead, mais c'est pas le Necronomicon. Non.
Sinon, on aurait un tout autre film là, pour la finale.
Ah, Seigneur, ça revirait d'autre.
Après ça, fast forward, une soirée au fond autour du feu où Nicole elle parle avec Mrs. Mill, justement, des photos des morts. Puis là, Mrs. Mill, comme elle est plus vieille, ben, elle lui offre un peu des insights sur qu'est-ce qu'elle tient dans les mains. Puis elle lui parle justement qu'elle a vécu dans le temps de la tuberculose et puis que c'est à peu près à ce moment-là aussi que Lydia a arrêté de parler. Rien de plus personnel.
Hint,
ouais, c'est vraiment juste pour nous donner des hints, cette scène-là, là. Voilà.
Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça se situe tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945. Puis là, elle parle que ses parents ont quitté l'île en 1940. Fait que là, l'aspect d'isolement probablement qui a joué là-dedans. Parce qu'on ne sait pas trop. Avez-vous catché quand est-ce que probablement elle aurait commis ce geste-là?
Oh, moi, dans ma tête, c'est quasiment simultané, là.
Ouais. C'est ça, hein, c'est, ça fait pas longtemps.
Réveille, c'est le moment où est-ce qu'elle venait c'est
comme ça que je l'ai... C'est comme ça que je l'ai interprété aussi.
Là, la maison est vide à cause de qu'est-ce qui s'est passé. Là. Je sais pas qui est venu nettoyer si on l'a raté, mais... Sinon, en vrai, ça, la maison est achetée par quelqu'un, puis là, ben, t'es...
Ils viennent visiter.
T'es amené c'est avec ça. Eux qui essaient de comme lui faire... qui essaient d'être comme dans Beetlejuice, là, le guide pour le passage vers la mort. Là.
Vers l'au-delà.
Ouais. Beetlejuice, what a movie. Hein? C'est que j'aime ça, ce film-là. Mais ouais, c'est excuse, hein, on te coupe, là. Mais sinon, t'as du piano qui joue tout seul.
Il n'y a pas de problème. Et le piano qui joue tout seul, au fond, fait que là, elle, automatiquement, elle flippe la switch à l'alerte rouge.
Oui.
L'alerte 12.
Ouais, oui.
L'alerte 12 direct.
Ça, il répète sa joke trois fois pour être sûr qu'on l'ait pogné.
Non, mais faut que t'en ailles une bonne, tu couperas ça au montage.
Alerte 12.
Okay. Fait qu'elle, elle se dirige vers la pièce parce qu'elle est un peu freaky. Puis elle est OK à propos du piano. On sait jamais vraiment pourquoi, il me semble, mais elle veut que personne y touche. Fait que là, elle est fâchée qu'il y ait des gens qui y touchent. Elle est pas mal certaine que c'est pas ses enfants. Elle rentre dans la pièce, bon, puis elle referme le couvercle du piano. Parce qu'au moment où elle rentre dans la pièce, le piano s'arrête, si je me souviens bien.
Ouais.
Et puis là, bon, elle observe un peu les lieux pour voir si elle est seule. Effectivement, bon, elle referme le couvert du piano. Puis au moment où elle vient pour sortir, elle se prend la porte d'empoire, au fond.
Ouais, mais ça, moi, c'est une des scènes qui m'avait fait le jumper, moi, au cinéma. Parce
que
c'était la porte.
À cause du son.
À cause du son, puis tu sais, tu t'attends, tu dis, il va peut-être avoir de quoi, puis quand elle revole sur le dos. Mais moi, je me souviens, j'avais fait le saut au cinéma parce que, évidemment, le son est tellement fort, là.
Ouais.
Mais oui, ça en avait été un qui m'avait fait sursauter.
Non, ça, c'était, ouais, c'était quand même efficace comme scène, là. Sinon, aussi, qu'est-ce que.
Puis la
à cause
qui
de
ça,
Nicole Kidman, hachée dans ses shirts comme qu'on a tout fait avant dans une autre scène.
Oui.
Fait que là, elle s'en va dehors pour aller chercher le prêtre parce qu'elle était écœurée qu'elle s'est toujours donné des excuses parce qu'elle veut que le prêtre y vienne. Fait qu'elle se dit, je vais aller le chercher. Et c'est dans le brouillard, dans son gros terrain, puis là, elle tombe face à face avec son ex, c'est tout ça?
Exact.
C'est là qu'elle retrouve son mari, supposément mort au combat, là, dans le brouillard. Puis en fait, il y a une conversation avec les servants, puis les servants c'est là que tu vois qu'ils sont de mèche un petit peu, puis ils sont comme, on va s'en aller dans le brouillard, puis elle va revenir.
Ouais, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche à partir de là avec les nouveaux arrivants, puis le film t'enligne sur penser que c'est à cause de eux les phénomènes paranormaux.
Ouais, mais il faut mentionner, Grace, elle lui dit, regardez sur le terrain si vous voyez des pierres tombales, dont un petit gars Nicolas. Et là, M. Stutton dit, OK, pas de problème, je vais faire ça. Puis là, tu le vois qu'il est en train d'enterrer quelque chose avec des feuilles.
Ouais, ouais,
là, tu sais plus tard que c'est sa tombe à lui, là, puis il leur tombe à eux. Là.
Par la suite, bon, elle retrouve son mari dans la brume, elle ramène à la maison. Donc là, bon, c'est comme un moyen, un moment heureux. Parce que les enfants ont retrouvé leur père et puis elle a retrouvé son mari. Mais lui, bon, il a l'air d'être quand même pas mal d'invap, là. Parce qu'il parle pas beaucoup. C'est Charles, je pense, son nom.
Charles, ouais, c'est ça.
Non, il parle pas gros. La seule affaire qu'il dit, justement, c'est que quand il demande il était où, il dit juste « I was out there looking for my home ». Tu sais, lui, dans le fond, c'est un homme errant, là, au final.
Puis il dit « Des fois, je saigne ».
Ouais, c'est vrai qu'il dit ça aussi.
Ouais.
Probablement où il s'est fait tirer, là, à guerre.
Ouais, mais t'as un autre petit aspect encore philosophique un moment donné, parce que le retour du père fait penser beaucoup les enfants aussi, puis amène beaucoup de questionnements. Puis un moment donné, la petite Anne, elle demande, mais là, si tu meurs en guerre, tu t'en vas où? Puis là, t'as Nicole Kidman qui dit, ben ça dépend si t'es avec les goodies ou les baddies.
Les baddies, c'est ça.
Ça, c'était une bonne scène, là, parce que...
Ça t'apporte à réfléchir, puis ça t'apporte à mettre en perspective un peu qu'est-ce qui se passe, là, parce que...
Je me souviens plus c'est quel film, justement, qui disait que l'histoire marque qui était le méchant ou le gentil parce qu'au final, le gagnant va réécrire l'histoire. Fait qu'à cause de ça, c'est lui que t'as l'impression qu'il est gentil.
Je me souviens de cette quote-là, mais je ne peux pas dire c'est dans quel film.
Ouais, non plus.
Ça apporte justement à ce genre de réflexion-là et à te poser des questions. Fait que c'était intéressant parce que c'était pas trop in your face, même si c'était quand même in your face, mais ça te donnait pas les réponses. Fait que c'est ça qui est intéressant dans la scène.
Ouais, puis c'est de voir la réaction de, encore là, de Anne, la petite fille. Tu sais, qui solidifie un peu son côté, là. J'embarque pas tellement là-dedans parce que pourquoi c'est les baddies? Ah, parce que c'est nous autres, c'est l'Angleterre, on est du côté des bons. Puis là, tu vois, quand elle regarde sa mère un peu tout croche en disant OK, tu vois, là, elle commence à mettre en doute, là, un peu les visions de sa mère, là. Ouais, c'est ça, exact.
Mais là, sinon, Seb, c'est là que t'es à la
fast forward à la scène, là.
Mais oui. Fait
que En gros, je pense qu'ils ont préparé une robe pour la première communion de Anne. Donc, c'est le rite de passage de l'Église catholique. Bon, puis après ça, Anne est comme, ben, je veux garder la robe. Puis là, elle dit, ben, t'es un enfant, tu vas briser ta robe, fais pas ça. Finalement, elle garde la robe quelques minutes. Puis le temps que Nicole sorte de la pièce, quand elle revient dans la pièce pour voir son enfant, elle remarque que, bon, elle joue avec une espèce de pantin. Quand même creepy à base.
Oui.
Puis elle remarque que la main de l'enfant est comme vieillie, comme une main de vieille personne. Là, tout de suite, elle dit « Hey, qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? » Elle charge, puis au moment où elle retourne la personne, on voit juste le visage de la vieille femme aveugle là, que Anne avait dessiné un petit peu plus tôt. Fait que là, ça, c'est très, très, très surprenant à ce moment-là. Oui. Très stressant comme scène.
Puis elle garde la voix de Anne aussi, c'est ça qui est
creepy. Elle garde la voix de Anne parce qu'elle répond, c'est ça. Ah oui, ça, c'est creepy.
Puis elle a les yeux, la madame, elle a les yeux comme dans...
Si,
ouais, comme dans le premier Evil Dead, l'original. Là.
Ouais, ça, je l'ai pas encore vu, mais je sais ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les yeux vraiment blanc-lait, là.
Ouais, blanc, dans le genre que les acteurs étaient plus capables de mettre ces lentilles cornéennes, là.
C'est ça. Genre qu'ils ont pas vu pendant 3 jours, genre.
Ouais.
Après.
Ah ouais, c'est solide, là. Mais ouais, c'est très, très bonne scène. Là, moi, je me souviens que c'est la scène qui m'avait le plus saisi quand j'étais à ma première écoute.
Puis ouais, j'ai aimé comment, bon, là, Anne et sa mère se battent un petit peu, puis Anne finit par détruire la robe.
C'est plus Nicole
qui abat.
Hein.
Mais ouais, Anne tient tête, par exemple.
Ouais, ouais, relativement.
Ben, j'aimais la phrase qu'elle dit. Elle dit « You're wicked », genre... Pas your bad or bad mommy ou quelque chose, your wicked. Wicked, c'est plus fort là, que genre méchante. Là. C'est comme.
Ouais, t'es.
Je sais pas comment le dire.
T'es vicieuse, là. T'es comme maligne.
Ouais, ouais. T'es maligne.
Maligne, c'est le bon mot. Ça.
Ouais.
Merci, mec.
Yeah, it's correct, man.
Fait que là, bon. Anne, elle s'enfuit, elle va voir son père, puis elle lui explique qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Puis là, tu es introduit à cette journée-là, en guillemets. Fait que tu comprends qu'il y a eu comme un événement charnière dans l'histoire récente, dans leur relation. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que bon, Nicole, elle a un peu de remords face à son geste. Elle finit par aller voir son mari. Puis là, son mari, il explique, il demande, tu sais, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Puis là, tu vois que la psychologie de Nicole commence à revirer à ce moment-là. Là. Puis on commence à avoir plus des éléments qui nous mènent vers la vraie intrigue.
Exact. Puis je ramène Anne encore, parce que Anne, tu sais, quand je vous dis que moi, elle tient tête à sa mère un peu, à un moment donné, elle lui dit, tu sais, tu me dis qu'on s'en va dans les limbes, mais tu nous as dit à un moment donné que c'est seulement les enfants non baptisés, puis elle dit, moi, je suis baptisé.
Ouais.
Elle lui dit ça de même. Puis là, moi, j'ai marqué « Qu'est-ce toi, Nicole? »
Ah, c'est sûr que tout le film est alentour de justement shaker la foi. Là, parce que
exact.
C'est comme une... Ça apporte que c'est une prétention justement de penser qu'on sait qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis c'est ça qu'elle se rend compte à la fin de tout ça. Là.
Exact. Puis moi, ce que j'aime, c'est Mrs. Mill qui est entre deux, puis elle dit, tu sais, faut pas croire tout ce que dans les livres. Puis là, tu sais, les deux, nous aussi, on croit pas tout, l'Arche de Noé, blablabla, puis tout ça. Fait que tu vois, Mrs. Mill qui est un peu l'entre-deux, tu sais, Grace qui est très rigide, Mrs. Mill qui a déjà vécu, puis qui sait qu'est-ce qui se passe. Puis là, qui écoute les enfants, puis elle se rend compte, hey, les enfants sont vraiment bright dans leur façon de voir les choses.
Ouais, ouais. Sont réveillés un peu plus.
Ouais. Exact.
Sinon, après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que Afornique avec son conjoint.
Oui.
La fornication a lieu. Après fornication, le conjoint part, puis finalement, tous les rideaux sont enlevés dans la maison entière.
Exact.
Exact.
Là, elle a capote, là, parce que dans sa tête, ses enfants sont en train de brûler.
Oui. Elle enlève sa robe de chambre pour les recouvrir, d'ailleurs. Oui.
Puis il y a là, nudité, ben, ressort son, si elle ressort son shotgun.
Si vous voulez de la nudité de Nicole, il faut aller voir Eyes Wide Shut.
Oui! Vous allez la voir même faire pipi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Seigneur, oui.
En venant de leur soirée prestigieuse.
Oui.
Ben, excuse-moi, c'est vrai, on t'a coupé pour un pipi de Nicole, mais ça valait la peine.
C'était un beau pipi de Nicole.
Ah ouais.
J'avais complètement pas retenu cette information-là. Je l'ai vu, là, Eyes Wide Shut, puis j'ai oublié. Volontairement, peut-être.
Peut-être.
Fait que là, après ça, ça va un petit peu plus vite. On voit les enfants qui, un petit peu plus tard la nuit, fait que comme il fait nuit, ils peuvent potentiellement se promener sans danger, au fond, selon leur perception à eux de la maladie qu'ils ont. Puis qu'ils se disent qu'ils veulent aller voir, ils veulent aller retrouver leur père, au fond.
Oui,
c'est ça.
Ce qui les amène à s'échapper par la fenêtre, puis à trouver sur le terrain les pierres tombales des trois servants.
Oui, puis en train de nous autres. T'as Nicole qui voit les photos entre-temps. C'est, ça se passe simultanément, ces deux scènes-là.
Oui, c'est vrai.
Exact.
Parce qu'eux, ils trouvent les tombes, puis Nicole, elle voit les photos du livre des morts, puis elle voit que les trois servants sont sur une des photos décédées.
Puis ils sont vraiment morts de la tuberculose en 1891. Fait que ça veut dire qu'ils sont morts il y a peut-être une cinquantaine d'années là, déjà. Là.
Ouais, mais justement, c'est un des trucs cocky que Mrs. Mills a dit quand elle est tirée avec le shotgun, puis elle dit « Go ahead, tuberculose oui. got us half a century ago ».
Exact.
Ouais, ça, c'était bon. J'adore.
Oui, c'était bon.
C'est tout qu'elle les confronte.
Ouais, ouais. Mais la finale est toute bonne, là.
Oui, ben d'accord. Mais c'est ça, là, t'es...
c'est ça, ben, c'est plus...
Petite pause. Non, mais c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé bon, c'est que les domestiques, ils parlent au travers de la porte. Puis je me souviens encore, au cinéma, d'être un peu mal à l'aise. Parce qu'ils sont à la porte, ils rentrent pas. Puis là, c'est quand elle lui dit « Ah, les intrus vont vous trouver ».
Oui, oui, c'est vrai.
Là, c'est quoi ces maudits intrus-là? Eux autres sont morts. On sait que c'est des fantômes, les trois, là. Mais là, tu sais pas encore pour la maman, là, Grace et ses enfants encore. Là.
Ouais, elle apporte un autre élément, justement, que quand t'as pas vu le film, que tu comprends pas, là, où est-ce qu'elle va en aller.
Exact.
Exact.
Là, elle envoie, je pense qu'elle envoie les enfants à l'étage à ce moment-là, Seb?
Je me souviens bien, ouais. C'est un peu flou, mais dans mes notes, honnêtement, moi, j'ai juste marqué qu'il est tombé des rideaux. Ils sont morts. Mais. ils sont trop fous.
Ils sont tous morts.
Ils sont tous morts.
Les 12 enfants, ça, ils se cachent dans le garde-robe.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont cachés dans le garde-robe. Puis avec Victor.
La femme aux yeux blancs qui est. What's up, bitch? Elle arrive.
Hey, Ben!
C'est vrai, elle débarque. Ah, oui. Là, il y a quand même une belle scène de tension. Oui, c'est ça. Il y a une belle scène de. Parce qu'on avait vu quand Anne, elle se fâche, elle respirait fort. Là, les deux sont stressés, ils sont cachés dans un garde-robe, puis ils respirent fort. Puis là, Anne a dit, ben, c'est pas moi qui respire fort, c'est revivre à son frère, tu sais. Puis elle dit, comme, ben, pourquoi tu respires aussi fort? Puis comme, je respire pas fort. Puis on se rend bien compte parce qu'on les voit, on les voit que c'est l'un des deux. Fait que là, déjà, la tension monte parce qu'il y a potentiellement Victor, entre guillemets, avec eux dans le truc, jusqu'à ce que, justement, de façon très rapide, bon, on voit la femme qui ouvre le garde-robe.
Ouais, puis là, on les entend crier.
Exactement.
On les entend juste crier.
Exact. Ce qui ramène Nicole dans la salle à manger, si je me souviens bien. Puis là, c'est la révélation.
Ben ça, Nicole, elle monte en haut, puis elle les voit faire une séance. La madame a fait une séance de médium.
Ouais.
Puis elle fait l'écriture automatique, la grand-mère. Fait que c'est pour ça qu'elle, c'était comme une médium qui essayait de rentrer en contact. Fait que c'est pour ça que les enfants la voyaient tout le temps. Parce qu'elle, elle fait pas partie de la famille qui habite dans la nouvelle maison. Là, la médium est là, t'as la mère dans Game of Thrones qui est là.
oui, j'ai remarqué ça aussi.
Avec son mari, puis là, elle fait de l'écriture automatique, puis là, justement, ça te dévoile.
Un monsieur qui traduit là, au fur et à mesure, là, qui écrit. Là,
puis là ça te dévoile, justement, puis ça fait réaliser à Nicole qu'elle a tué ses propres enfants.
Exact.
Puis là, après, t'as la fameuse scène, justement, où est-ce que toute sa foi est ébranlée, qu'elle a ses enfants sur elle, qu'elle leur explique qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait. Puis que justement, elle n'a aucune réponse.
Ouais, ben ce qu'on sait, c'est ça. Puis elle les a étouffés avec un oreiller.
Ouais.
Fait que c'est là qu'on s'entend qu'elle a fait ça. Puis ensuite, ben elle était désespérée, puis elle s'est tirée, là, justement. De là, les migraines.
Puis après ça, tu dis que tu vas avoir un bon. Il aurait pu avoir des suites que c'est un poltergeist, parce qu'au final, tu sais, elle fait répéter à ses enfants: This is our house, this is our
oui.
house.
Notre
maison, oui,
c'est
oui.
notre maison, puis elle le fait répéter. Puis je me suis dit, ça va être un beau cas de poltergeist, ça. Là. C'est clair que ça va pas être des esprits le fun à habiter dans une maison. Là.
Non.
Non, pas Grace, en tout cas.
Oh, clairement pas. Là.
Trop protectrice pour ça.
Mais oui, c'est ça qui est wrap around the others.
Ouais.
Malgré tous nos essais, on s'excuse si on t'a coupé souvent.
C'est pas grave.
On t'a pas rendu la tâche facile. Serge, vu que t'es notre invité, est-ce que tu veux commencer avec ton recast?
Oh, que je me suis donné.
OK.
Oh! OK, je vais avec les trois domestiques que j'ai recastés.
Okay.
Donc, Mr. Tuttle, je l'ai recasté par Jean Rochefort.
Hey boy, OK, déjà tu me perds. Il va falloir que je sorte maintenant.
Vous sortirez vos... qui est un acteur français qui... Je sais pas si vous avez déjà vu Mr. Bean Holiday, là.
Ouais.
Non.
Donc, c'est lui qui est l'espèce de serveur dans le restaurant quand il mange les crustacés tout crus, là.
Oui. OK, oui.
Donc, ça, c'est Jean Rochefort. Miss Mills, Ellen Bernstein, la maman de Regan... Ben oui. mais en plus vieille, là. Ellen Bernstein plus vieille.
Ellen Bernstein, genre Requiem for a Dream.
Exactement, exactement.
Okay. Ah, ok, ok, là je catch.
Lydia à Lily Collins.
Ouais, ouais. C'est très bon recast. Mais Lily Collins, c'est vrai qu'elle peut avoir l'air effacée comme ça.
Ouais, ouais, elle peut être bonne. Mm-hmm. Ensuite, je continue. La médium, une vieille Betty Davis.
Betty Davis, ok, ça j'ai un blanc. C'est-tu Who Kills?
Ouais, c'est écoute, dans les vieux films. Puis aussi, c'est parce que pourquoi j'ai joué avec elle, c'est qu'elle a une chanson. Il y a une chanson des années 80 qui s'appelle Betty Davis Eyes.
Ok.
Puis comme la médium a des yeux blancs laits, là, j'ai joué un peu avec ça. Puis je trouve que je suis allé voir Betty Davis vieille. C'est peu avant sa mort, puis je trouvais que je disais, il y a des ressemblances un peu avec Madame, okay, Madame Medium.
Je viens de prendre une photo, là. Je suis d'accord avec ça, moi.
Non, ça
j'accepte.
Bon. Moi, j'avais vu dans All About Eve, que j'avais quand même trouvé.
Oui.
Mais ouais. Ok, ouais, je comprends, j'en ai une photo plus vieille. Là.
Ça, puis je joue le fait que les yeux aussi. Là.
Ouais.
Le garçon Nicholas, Freddie Highmore, quand il était jeune.
Freddie.
Notre fameux bon docteur, good doctor, Norman Bates, mais jeune, là.
OK, ouais, quand il était kid, là, dans ses débuts
quand
de
kid.
Doctor, OK.
Ouais, Willy Wonka, puis tout ça, là, quand même un peu plus jeune que ça.
Ah, c'est plate, parce que j'ai recasté, puis ça fait plus le tien que le mien.
Moi, j'ai recasté, puis je pense aussi que tu l'as mieux eu.
Ben, okay. Attends, on va stopper ton recast, là, je veux savoir qui est le meilleur. Seb, c'est
quoi? OK. Moi, j'ai recasté. Je trouvais que Henry Thomas, fait que le kid dans E.T.,
juste boy,
un petit peu plus Lyman, jeune, il a quand même une tête creepy. Ouais. Il aurait pu faire le même genre d'acting de jeune avec une face un peu sévère, mais comme creepy en même temps. Je trouvais que ça marchait pas pire.
Je vois pour Thomas. Le mien, j'ai été pour Jacob Tremblay. Jacob Tremblay, qui est le kid dans Dr. Sleep aussi. Mais je pense que c'est all around, j'ai pas le choix de le donner à Serge, je pense.
Ouais.
Ouais. Mais l'autre doute que j'avais, c'est peut-être, tu sais, celui qui fait Gage là, dans Pet Sematary, là.
Ouais, mais non. Non, parce que.
Mais je pense Freddie Highmore pour l'accent
aussi. Parce que, aussi à cause de sa fragilité. Il a l'air frêle.
Oui, ouais. C'est vrai.
C'est vraiment niveau fragilité, c'est lui des trois qu'on a sorti qui a l'air le plus fragile. Fait que je pense que je te donne.
Ouais. Puis Anne, je trouve qu'elle ressemblait à personne, mais je suis allé avec Julia Winter qui joue dans justement Charlie la chocolaterie, encore Willy Wonka. Celle qui est Je veux un poney. Donc, à cause de son caractère de cochon, là, qui s'appelle Veronica Salt là-dedans, là, tu sais, avec son père qui achète l'usine à chocolat. Puis,
elle est sévère, elle aussi, quand même.
Oui, froid, c'est ça. Peu. Puis froid, exactement. Tu sais, austère, là, donc je suis allé avec elle. Et je vais terminer, je vais aller avec un sacrilège, Mick. Je sais que des fois, tu veux pas recaster une super bonne actrice. Oui, mais à cause de mon partner Bruno qui aime pas Nicole.
OK. j'achète.
Alors, je l'ai recasté par Amy Adams.
Ah ouais, mais Amy Adams est bonne. C'est un cheat, ça. Amy Adams, c'est comme une des meilleures actrices qu'on a à notre époque, là.
Fait que c'est pour ça que je suis pas gêné de la recaster avec Amy Adams.
Tu connais Amy Adams, Sam?
Oui, je suis là.
OK.
Ouais. J'ai même une photo avec les deux ensemble. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Ça marche.
Le petit nez.
Ouais, je pense
que c'est super. Le petit nez, puis,
ouais, les petits yeux bleus.
Ouais, non, ça fait.
Puis le dernier que j'ai pris, puis je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai mis quand même le papa, j'ai mis Emmanuel Bilodeau. à cause du nez.
Tout ça passe d'un nez.
Oui.
C'est un recast de nose.
Oui. Un recast de nose.
Bien joué.
Non, alors voilà, c'était mon recast.
Bien joué. Shoot le tien.
Ben moi, j'en ai trois. Donc, on a déjà couvert le kid avec Henry Thomas. J'ai recasté la servante par une actrice qu'on
laquelle
a vue
servante?
Dans...
Mrs. Mills?
Mrs. Mills,
okay.
Par Robin Nevin, qui est la grand-mère dans Relic qu'on a couvert.
Ah, okay.
J'y ai tellement pensé, oui.
Parce que je l'aurais vu dans un rôle, justement, avec la bonne prestance, je trouvais, pour faire une servante, tu sais, fière, puis qui fait bien sa job, mais elle a un visage juste assez creepy, en tout cas dans Relic, la façon qu'ils l'ont arrangé, là, je ne dis pas dans la vie, mais elle aurait été capable de donner la vibe creepy que tu n'aurais pas été capable d'avoir confiance en elle tout le long du film, tu sais. Fait que ça aurait fonctionné, je pense. Puis mon dernier, il est un petit peu plus silly, là. Le père, au fond, je l'aurais recasté par Sean Bean.
OK.
Parce que Sean Bean, il meurt tout le temps. Fait que là, tout le long du film, quand tu l'aurais vu, tu te serais dit, Chris, il a survécu, mais non, il était mort. Fait que, juste pour la blague, mon dernier, c'est Sean Bean.
Nice shit.
Parce qu'il survit pas quand même.
Ouais, je comprends.
Oui, c'est vrai.
Moi, comme on a dit, Nicolas, on l'a déjà recasté, là, Serge a gagné avec ça. Mrs. Mills, encore une fois, on est tous les trois recastés Mrs. Mills. Moi, j'ai mis, à cause qu'elle rôde dans le monde de l'horreur, zéro par similarité ni rien, juste complètement un autre style de recast, Mrs. Mills aurait été Katie Bates.
Ah oui, j'y ai pensé. Ouais. C'est fou, là.
Je sais pas pourquoi. On dirait que, justement, son côté, qu'elle peut être agressive, mais en même temps, comme maternelle, je trouve que Katie Bates...
Menaçante et maternelle, oui.
Ouais, fait à cause de tout ça, je l'ai mis, puis à cause qu'elle rôde dans le monde de l'horreur, ça a été mon pic. C'est rare que je ne vais pas par similitude, mais celle-là, on dirait que j'avais un vibe de Katie Bates. Ah, puis bien, sinon, Serge, t'as pas fait un temps gros sacrilège parce que j'ai recasté Nicole Kidman aussi.
Oh, OK.
Là, moi, Serge, tu vas aimer ça. Je suis comme dans un univers parallèle où est-ce que l'actrice Nicole Kidman aurait pris un autre rôle, puis l'actrice que je vais mettre aurait pris son rôle à la place. Fait qu'il aurait switché de film. Fait que Nicole Kidman, elle aurait été faire Mulholland Drive, qui est sorti la même année de David Lynch. Puis Naomi Watts, elle aurait pris le rôle de Nicole Kidman dans The Others à la place.
Oui, j'adore.
Ouais.
Fait j'adore que t'es allé jusqu'au bout et t'es juste swappé 100% les deux.
Ouais, c'est le même que j'aurais vu ça. Là. Puis les deux, je trouve qu'ils fit autant dans le film de l'autre, personnellement. Je trouve que c'est le même genre d'acting qu'ils sont capables de nous deliver.
Bon call.
Serge, c'est
intéressant. Non, mais je trouve ça intéressant. J'aime l'idée du swap entre deux films, là.
Ouais, parce que c'est la même année. Puis, tu sais, moi, David Lynch, on le sait, là, j'ai un hard-on pour David Lynch. Fait que, je trouvais ça. Là, j'étais comme, hey, Mulholland Drive, est-ce que c'est sorti la même année? Naomi Watts, ça me fait pas. Fait que j'ai comme commenté. Je pense pas qu'il était dans le top de tes box-office, Mulholland Drive, mais quel film, par contre.
Oui, mais c'est tellement bizarre parce que quand je savais que j'avais un recast à faire, j'avais tellement hâte de le faire d'ailleurs. J'étais allé fouiller. Puis honnêtement, Seb, moi j'avais un autre choix. J'avais deux autres choix là, pour Mme Mills. Il y avait ce que tu as nommé, là, la dame de Relic, ou encore dans The Visit.
Ah oui, ben oui, la mère.
Donc la grand-mère freaky. Puis Naomi Watts, c'était un autre choix potentiel parce que je trouvais que c'était une bonne actrice aussi. Puis elle fitait quand même là, dans le fit corporel de...
Ouais. Ouais, vraiment. Les yeux bleus, le petit visage, le niveau d'acting qu'elle peut deliver, ça fitait quand même beaucoup. Là.
Exactement.
Good. Yeah. Fait que là, Serge, on t'initie justement à. On sait que c'est comme un peu nouveau segment où est-ce que ça sort en ce moment, mais c'est relativement nouveau. Fait que on a une espèce de discussion libre sur qu'est-ce qu'on a vu cette semaine. D'ordre général, c'est ça. Moi, je sais pas si vous avez eu une grosse semaine d'écoute de votre bord, tout ça, mais n'importe qui a le goût de shout-out quelque chose peut y aller en premier.
Moi, je vais faire juste ça sera pas long, là. J'ai regardé je vais faire un petit shout-out à l'émission Drive to Survive sur Netflix, parce que je les ai dévorés. C'est une émission sur la F1, fait que ça va peut-être pas revenir chercher tout le monde, mais je trouve que la réalisation de ça donne tellement d'intensité. Au fond, c'est comme une fois et demie probablement ce que c'est dans la réalité là, au niveau de tension, mais c'est super bien réalisé. Puis j'adore regarder des documentaires ou des films qui traitent de personnes qui vont à l'extrême, là, genre des champions. Drive to Survive, si vous aimez ce genre de personnalité-là, là, t'es comme, c'est les 20 personnes les plus rapides au monde au final. Là.
Ouais.
Puis c'est les 20 plus gros égaux au monde au fond. Fait que les clashs de personnalités, puis avec les directeurs aussi de programme, puis tout, moi, je trouve ça vraiment intense, puis vraiment super le fun à suivre. Ils sont rendus à la troisième saison, puis je trouve que la réalisation redonne un petit peu de ses lettres d'or à la F1, dans le sens où ça remet un peu plus l'aspect compétition, et non juste l'aspect, ben c'est des chars, puis ils vont vite, mais vraiment comme la psychologie de la compétition derrière ça, puis... Comment est-ce qu'ils se jouent tout un peu dans la tête? Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est super bien réalisé. Puis, je voulais en profiter pour faire un shout-out parce que quand ils sortent à chaque année, je les dévore. Là.
OK, parce que c'est une série récurrente. Là. C'est pas juste.
Oui, au fond, à chaque année, ils font un recap de l'année passée.
OK.
Fait que c'est la troisième année qu'ils le font. Donc, là, la saison 2021, en date qu'on enregistre l'épisode là, pour vendre la mèche, elle commence comme cette fin de semaine. La semaine passée, la série est finie. Fait qu'avant de commencer la saison, tu regardes Drive to Survive sur Netflix, puis t'as comme ton recap de l'année d'avant.
OK, ouais.
Puis, fait que c'est ça. Moi,
j'ai la fin, t'avais écouté ou t'as écouté d'autres choses?
Non, moi, ça me dit rien. J'ai pas. Des fois, tu surfes sur Netflix, trouver quelque chose, mais non, j'avais pas vu ça.
C'est super bien réalisé, c'est très intense.
Mais pendant que t'es là-dedans, Seb, t'as-tu d'autres choses que t'as à shout-out ou c'est pendant ça que t'as écouté cette semaine?
Non, j'ai lu aussi Ready Player One, le livre versus le film.
C'est bon, le livre?
Ah. Le livre est bon, c'est vraiment différent. C'est parce qu'il y a, il y a des aspects, je trouve, dans le livre, ça aurait fait vraiment un mauvais film. Puis tu peux vraiment voir le, tout ce que probablement Spielberg et son équipe ont apporté, qui fait que le film est quand même grandiose, là, versus, mettons, les événements qui sont plus décrits dans le livre, qui sont vraiment plus geeky un peu,
ouais.
Mais moins,
ouais,
qui n'auraient ouais. pas été vraiment pas le fun tant que ça à regarder comme film. Fait que toutes les choses que lui a mis de côté puis que lui a fait, Spielberg, c'est comme... Ça aurait vraiment ajouté à l'expérience cinématographique, à mon avis. Fait que juste pour ça, je trouvais que ça valait la peine de lire le livre.
Puis y a-t-il une séquence comme dans Shining ou ça, c'est vraiment ajouté par Spielberg?
Non, ça, c'est 100% Spielberg. C'est une des raisons pourquoi j'avais acheté le livre. Là. Je voulais voir si l'auteur, à la base, était autant geek, mais c'est vraiment un hommage personnel, je pense, de Spielberg.
Ouais, je m'en doutais, là, parce que Shining et Spielberg, il y avait une amitié ensemble, là. Shining. Kubrick,
oui.
Le Shining.
Le Shining particulièrement était ami avec... Non.
Ah, mais... un des deux. Ouais. Mais comme Intelligence artificielle, justement, qui est le film que notre ami Spielberg ouais. A fini, là.
Ouais, exact.
Il voulait, en fait,
au début, je pense que Kubrick, c'était son projet, mais il sentait que ça allait être trop froid si c'était lui qui le faisait, puis il arrêtait pas de talonner Spielberg pour le faire. Puis finalement, justement, Spielberg a pris les rênes après la mort de Kubrick.
Exact.
Mmh. Fait que, solide film. Mais toi, Serge, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine?
Écoute, il y a deux affaires. En fait, avant de dire ce que j'ai écouté ou regardé, bizarrement, là, c'est quasiment Twilight Zone présentement.
Okay.
J'ai reçu ce matin même, par ma commande Amazon, le livre de Shining.
Ah oh, ouais.
C'est weird, là.
L'as-tu lu, déjà?
Oui, en français, mais là, je voulais le lire en anglais. Fait que là, je me suis commandé, puis je l'ai reçu à matin même, alors que j'étais censé l'avoir demain. Je me suis dit, c'est une drôle de coïncidence, donc j'ai hâte de revoir ce classique-là en roman, avant éventuellement de le faire en podcast, là, évidemment.
Ça va être un bon épisode.
Ah, c'est sûr. Je pense qu'il y en a autrement. Je pense que j'en ai présentement qui va peut-être avoir un petit intérêt à écouter ça. Et un film qui m'a marqué, je vais vous dire, là, puis il y en a qui vont dire c'est horreur, d'autres qui vont dire c'est pas horreur du tout. C'est un film que je suis allé voir au cinéma, puis je suis allé l'acheter dès qu'il est sorti. C'est Promising Young Women.
Ah, j'ai pas encore vu. Mon Dieu, j'ai hâte de le voir.
Ça, là, il y en a pas 10 films qui est fait comme ça. Puis soit que tu vas aimer ou tu vas détester. Moi, c'est un film coup de cœur, mais coup de poing sur la gueule en même temps.
Ah ouais, ben j'ai entendu un peu de commentaires, là, puis j'ai vraiment hâte de l'écouter. Là. Vraiment hâte.
Ouais, puis je suis content d'aller le voir au cinéma. On sait qu'on n'a pas un choix incroyable là, des derniers temps. Mm-hmm. Puis quand j'ai vu ça, je dis, tiens, je vais aller voir ce film-là. Puis je suis allé avec ma conjointe et mes filles. On est ressorti toute la gang. Oh my God, c'était quelque chose, là. C'est particulier. L'actrice qui joue là-dedans est fantastique.
Ouais, Carey Mulligan, je pense.
Ah, Carey Mulligan. Moi, au départ, j'étais pas trop sûr. Puis finalement, elle m'a gagné, cette fille-là. Puis... incroyable. Moi, je vous recommande fortement. Vous allez peut-être dire que c'est ça ou vous allez dire « wow ». Mais il n'y en a pas 10. Là. Je vous dis tout de suite, il n'y en a pas 10 films comme
mais
ça.
Ça touche vraiment dans mes genres de cordes. Là. C'est un film que j'ai sur mon radar depuis un bout. Je veux tout le temps aller le voir, mais dans notre coin, on est proche du 10-30, là, nous autres. Là, fait que au 10-30, il y avait juste une représentation. Je ne vais jamais y aller parce que c'est quand je travaille. Puis là, ils l'ont enlevé du cinéma. Fait que là, il faudrait peut-être que je l'ouvre sur... Apple TV ou quelque chose comme ça, là, mais j'ai vraiment
envie. Il est sur Google puis YouTube.
Ouais, c'est
ils sont
ça.
Quasiment, sont très souvent là. Là
exact. Puis, dernière chose que j'ai regardée, puis ça, c'est pour le podcast, je vous dis tout de suite, c'est Toxic the Avenger.
Ah, ben là, c'est bon, ça. Là.
Oh,
les Neymos que j'arrête pas de talonner Seb, mais on
va le faire un jour.
Ben oui, ouais,
ouais. En tout cas, vous l'écouterez dans quelques semaines, mais on va. On va le couvrir. Bon, on l'a couvert déjà, mais wink wink, là, ça va sortir un moment donné. Là. Mais c'est vraiment, c'est over the top. Puis je vous dis tout de suite, là, je l'ai revu après tant d'années, puis c'est tellement pas bon que c'est bon. Là,
ah, mais c'est Traumaville, là.
C'est Trauma. Nice.
Lloyd Kaufman.
Oui.
On aime ça, ça.
C'est un exact. Classique de lui, là. Moi, sinon, hey, j'ai tellement une. T'as tellement aucun lien entre qu'est-ce que j'ai regardé. Puis que...
ah ouais?
Ouais, mais tu sais, ma blonde, elle aime beaucoup tout ce qui est québécois.
Ouais.
Surtout .tv, on a écouté les Boys 1 et 2.
Oui.
Nice. Les classiques québécois, là, t'sais, rien à dire là-dessus. Là, c'est tel que tel. Il n'y a pas de pouce à faire. Là. Vous aimez ou vous aimez pas, c'est ces films-là. Là. Ma blonde avait envie d'écouter ça, fait que je les écoutais avec elle.
Ça fait du bien.
Ouais, mais regardez c'est, ça.
Ben
c'est,
oui, ben
ça
oui.
Pareil.
C'est relax. Là. Sinon, j'ai écouté Phenomena, qui est un film de Dario Argento que j'avais jamais écouté encore.
Non, je l'ai pas vu non plus.
Fait que avec Jennifer Connelly, puis tu sais, Dario Seb, c'est Deep Red.
Yeah!
Fait que on aime lui. Dario
Argento.
Suspiria. Ben, que d'ailleurs, yes. vous avez pas aimé, ce que j'ai pu comprendre, mais tabarnouche que j'aime ce film-là, moi. Fait que ça.
Oh man! Ben, j'aurais voulu que tu viennes.
Ah ouais, mais c'est que. Tu sais, moi, un film, j'aime bien ça que. Qui m'amène dans une zone d'inconfort, puis qui sort de l'ordinaire, puis t'es servi avec Suspiria.
Ouais, je pense que j'ai préféré la suite, par exemple.
Ouais, mais j'ai pas encore vu Inferno. C'est ça qui arrive.
Ouais.
C'est que j'ai juste vu Suspiria, j'ai Mother of Tears, mais j'ai jamais réussi à mettre la main sur Inferno. C'est dans mes MOS, puis j'ai vu le remake. Puis le remake qui est encore plus inaccessible quasiment. Mais le remake, justement, il reprend à ce que j'ai pu comprendre après pourquoi. Parce que j'ai été m'informé pourquoi je comprenais autant pas. Puis il couvre les. C'est parce que c'est une trilogie de la Mother. Tu sais, t'as.
Ouais.
T'as Suspiria.
La mère de, du soupir. La mère de Mother of Tears, qui est la deuxième dans Inferno.
Ouais.
Puis l'autre, c'est mère. Je me souviens plus la dernière.
Ben, c'est Mother of Tears, le troisième.
Fait que, ah oui? OK. Ouais,
mais c'est ça, c'est tout. Ça doit être. Fait que c'est vraiment. Le Mother of Tears, c'est le nom du troisième film de Harry
Potter. Oui, t'as raison.
Fait
ouais.
La trilogie. Fait que, à ce qui paraît, le film italien qui est un réalisateur quand même très renommé là, en ce moment, là, il fait des A Bigger Splash, il a fait Call Me By Your Name, mais là, lui, ouais. Il a fait Suspiria, puis il reprend des éléments des trois films, fait que c'est quasiment comme un remake des trois films en même temps. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu fourré là, quand je l'écoutais, là, parce que ben, j'avais pas vu des films là-dedans. Là.
Mais est-ce que tu as vu Suspiria au complet?
Oui, oui, oui. Le
remake?
Le remake, oui.
Moi, j'ai écouté, je pense, les 15 premières minutes, puis... J'ai sauté Inferno tout de suite après.
Ah, ben, t'as bien fait parce que c'est ça, ça touche aux trois films, là. Fait que vraiment, aurait fallu que je fasse la même chose, mais j'étais tellement curieux que je l'ai écouté au complet, là. Puis la finale est très satisfaisante, là, par contre, là. Fait que j'ai hâte de voir les autres œuvres. Mais sinon, après ça, je me suis aligné avec un film très, très, très populaire, le Shazam.
Ah, oh, ben, nous autres aussi, hier, oui, oui.
Tu l'as-tu aimé?
Oui, man. Surprenant. Ah, ouais. Pour vrai, c'est un film des années 80. C'est vraiment ça. C'est un film 80s au bout, là. Genre, je sais pas, là, on dirait que tout était simple, puis en même temps, je pense qu'ils ont un peu fait comme Marvel a fait avec Ant-Man, prendre un Paul Rudd, puis avoir un personnage ultra charismatique, puis d'humour. Puis en même temps, j'aimais ça que jamais rien soit au sérieux versus tout le reste de l'univers de
DC.
OK. Ce que j'avoue que j'ai aimé ça, le fait que, tu sais, le super-héros Deep Down, c'est un enfant, au fond.
Ouais.
Il a beau avoir une apparence d'adulte, en réalité, c'est un enfant. Ça, j'aimais ça. C'est vrai que c'est plus il est plus léger que les autres films de DC en perspective, j'avoue.
Mais aussi, ouais. Des scènes comme exemple, quand les deux volent dans l'affrontement final, mais tu sais, d'habitude, c'est tellement intense, puis là, finalement, il fait juste pas l'entendre.
Parce je t'entends que, pas, là!
Ouais, il est trop loin pour faire son speech, puis tu sais, ce genre de mot-là m'a vraiment fait rire. C'est sûr que, of course, la fin que toute sa famille est Shazam, puis que là, le lien familial, tu sais, il fallait qu'une espèce de d'histoire hollywoodienne alentour de ça,
ouais,
parce que c'est un super-héros. C'est pour ça que c'est comme un 3 étoiles, 3 étoiles et demi. Là. Mais ça reste que j'ai été diverti. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes scènes. L'humour était quand même efficace. Puis honnêtement, c'est comme un des meilleurs DC pour vrai. Là. Fait que...
Ouais.
La barre est basse, à mon avis.
Oui, ben oui. j'ai pas aimé. Oui. Tu sais, il y a juste... Moi, j'ai été voir Superman versus Batman là, au cinéma.
Ah, t'as payé pour ça au cinéma?
Gros, la première heure, je me disais « Fuck everybody, man. » Ce film-là, il est bon. Hein. Je comprends pas pourquoi il y a du hate. T'sais, c'était un peu sur les dommages collatéraux. C'était des super-héros. C'était plus deep. C'était dark. Il y avait des interactions intéressantes. Puis là, plus ça avançait, plus l'action était là. Puis là, j'étais comme « Oh. Oh, OK. Ouais. OK. Oh. Oh, là. Martha. Oh. » Oh,
Martha!
C'est ça. C'est,
Martha!
J'étais un peu. J'étais un peu genre fuck ce film-là. Là. Mais bon.
Avez-vous vu le Snyder Cut?
Non, pas encore.
Non?
Tu as-tu écouté?
Non, pas encore. Parce que mais supposément qu'il. Beaucoup de gens se disent que c'est un film très différent puis meilleur.
Mais oui, mais il a juste pris, ils ont juste pris 10% du film pour faire. Quand Whedon il a pris la barre pour Justice League, il a juste pris 10% de ce que Snyder il avait filmé.
C'est ça.
Fait que là,
c'est vraiment pas la même affaire.
Non, 90% du film, ça va être un autre film. Là.
Mais moi, on dirait que ce qui me turn off, c'est le fait que ce soit un 4 heures. J'ai l'impression que c'est quelque chose de moins fini.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, okay,
à cause de ces 4 heures, dans le sens, c'est dans 4 heures, c'est deux films-là. Fait que j'ai l'impression qu'à un certain point, je vais m'emmerder dans le 4 heures, puis qu'il va manquer de plot twist ou... Parce qu'on connaît quand même un peu où ça s'en va, là, veux pas, vu qu'on a tous déjà vu l'autre film. Là.
Surtout quand on n'est pas fort ces films de super-héros comme toi et moi. Serge, je ne sais pas à quel point tu embarques dans le monde de super-héros. Mais déjà,
ça va, ça vient. T'sais, moi, je suis l'époque que j'avais eu le premier Batman avec Michael Keaton. Là, puis que j'avais été comme « Wow! » Tim Burton, puis tout ça. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a eu en denti.
Oh, ouais, c'est ça. Ouais,
c'est,
ouais.
C'est, des fois, c'est super, puis des fois, tu tombes dans quelque chose, tu dis « Ah, pas sûr! »
Il y a tellement, chez Marvel, on dirait qu'ils ont trouvé vraiment un gros dynamisme. Mais oui, ils ont beaucoup de fanbase, mais ils ont trouvé un certain dynamisme. Puis je pense que la côté DC, ils n'ont pas encore trouvé leur zone réellement.
Exact.
Puis ça fait des films super de base, je trouve, où j'ai pas des divertissements aussi au même niveau que certains des Marvel. Pas tous. Là. Il y a des Marvel qui sont des tonnes de merde aussi.
Oui. Mais hey, j'ai oublié, mais je suis allé voir Wonder Woman aussi.
Ah, ok.
C'est bon, ça?
Écoute, moi, j'ai tellement entendu de la chenoute que je suis allé là avec la barre très basse, puis j'ai passé un bon moment à écouter ce film-là, justement, encore là en famille, puis on est ressorti de là en disant, ben, c'est un bon divertissement, puis, tu sais, Wonder Woman avec, le vibe 80 des années 80, okay. Fait que moi, je sais pas, je suis sorti de là en disant, oui, c'est vrai, le CGI n'est pas fantastique par moment, mais je trouvais ça pas si pire. Tu sais, je m'attendais à avoir un navet, là, puis j'ai trouvé que les gens étaient trop sévères envers le film, personnellement.
Ah bon, ben, cool. Moi, justement, j'avais tellement entendu de la merde que je me tenais loin de ce film-là. Donc...
je vais finir par toutes les regarder pareil. Je suis comme un... Je me contredis, j'aime pas tant ça, mais je finis par toutes les regarder.
La curiosité de son homme.
Exact.
Exact.
Mais, ouais, fait que, hey Serge, rappelle-nous donc, Terreur sur le pod, qu'est-ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Ben, sur toutes les plateformes, vraiment, nous, c'est sûr qu'on peut nous trouver sur Podbean, mais sur toutes les plateformes, on est là. Puis c'est vraiment, notre balado au départ, on voulait parler d'horreur, puis on s'est rendu compte qu'on avait justement deux générations, puis ce qu'on s'est aperçu au fil du temps, c'est qu'on a un point de vue, je vous dirais, straight et gay.
Ouais.
Hein? Tu dois t'en avoir aperçu de ça. Puis ça, c'est venu avec le temps. Puis là, je voyais des points de vue de Bruno qui est gay, puis qui amenait, puis moi avec mon côté straight. Puis ça fait une dynamique intéressante. On se complète. Moi, je suis plus cérébral. Puis comme tu disais un peu plus tôt, Bruno qui est complètement bunker par moment.
Il laisse parler ses émotions, il laisse parler ses opinions.
Exact. Et c'est un chanteur. Donc, lui, là, il fait des montages de chansons complètement folles avec nos deux chanteuses en résidence.
C'est quoi, Samantha puis...
Ouais, Samantha et Sonia.
Ouais, c'est ça.
Deux folles, mais deux belles folles qu'on aime beaucoup, puis que Bruno s'amuse à faire chanter, puis sur mon synopsis de film, puis moi, je m'attendais pas à ça au départ. Là. D'ailleurs, petite anecdote, ça a commencé avec notre premier épisode de Misery, alors qu'elle dit « I'm your number one fan ». Puis moi, j'ai juste joué avec la voix, puis lui, il s'est dit « Hey, tu me donnes cette ouverture-là, je peux faire des affaires, ben j'amuse-toi, puis là, ben, j'ai ouvert une boîte de Pandore. »
Ah oui, mais c'est ça fait que vous vous démarquez, c'est intéressant, là, c'est dynamique au bout, là. Fait que, n'hésitez pas, là, où vous écoutez vos podcasts, Terreur sur le pod, d'aller voir ça. Sinon, Seb, le mot de la fin.
Yes, fait que, allez voir Terreur sur le pod sur toutes les plateformes. J'imagine que vous avez une page Facebook et ou un Instagram aussi.
Tout à fait, oui.
Fait que, rejoignez-les sur les réseaux sociaux. Sinon, nous aussi, on se trouve sur les réseaux sociaux. Alors, partagez, likez la page. Ça nous donne de la visibilité, puis ça nous permet de... Puis ça, en même temps, ça nous encourage à continuer à faire du bon travail avec le podcast. Et puis, envoyez-nous, comme d'habitude, vos suggestions, vos commentaires sur l'épisode. Puis, on veut avoir cette discussion-là avec vous, si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, ou vraiment pas d'accord sur ce qu'on a dit à propos du film. On adore parler avec vous, puis on répond à tout le monde. Alors, c'est cela.
Hey, merci, les gars, de m'avoir invité. Hein.
Ça fait plaisir.
Ben là, ça va... Moi, personnellement, j'ai adoré notre discussion. Là, ça me fait plaisir de vous réinviter ou d'aller dans votre podcast. Mais pour moi, c'est
absolument.
C'est pas notre dernière collaboration.
Tout à fait.
Fait que attention à tous les auditeurs, attention à vous. Bonne semaine.